C'est bon. Alors, quelqu'un disait tout à l'heure, quelqu'un que j'ai méchamment rabroué, qu'on n'avait pas simplement besoin d'une sociologie qui analyse, mais aussi d'une sociologie qui porte la critique et qui explique le monde dans lequel on est. Donc ça tombe bien, parce qu'on accueille maintenant Loïc Vacant. Loïc Vacant est bien connu en France, notamment pour ses travaux sur la boxe dans les milieux populaires de Chicago, pour les travaux qu'il a publiés avec Pierre Bourdieu. Il est connu davantage dans les milieux militants sur ses travaux sur la prison, les prisons de la misère, publiés aux éditions Raison d'agir. Mais il a produit beaucoup d'autres choses. Il a notamment commencé ses travaux en Nouvelle-Calédonie. Il a travaillé autour de la question de l'état social et de l'état pénal. En fait, il a aussi travaillé sur les États-Unis et il réfléchit aux façons dont le modèle américain, entre guillemets, peut aussi être le vecteur d'une espèce de transmission, d'une espèce de colonisation mondiale, en quelque sorte, d'un modèle qui s'est construit là-bas et qui tend à s'imposer sous des formes spécifiques dans l'espace européen. Donc c'est un peu de tout ça dont il va nous parler maintenant. Surveiller et discipliner la fabrique de l'État néolibéral, ça va être la dernière version de son intervention. Voilà, il va donc nous parler à la fois de cette question de la pénalisation, mais en parlant des rapports entre l'état social et l'état pénal, en reconstruisant peut-être aussi ce qu'est la véritable nature de l'État. Donc on lui donne la parole tout de suite, en le remerciant d'être venu jusqu'à nous. Trois quarts d'heure de présentation à peu près, et ensuite un débat avec la salle. Merci.
N'oubliez pas de la reprendre à la fin, parce que j'ai une collection extraordinaire de montres. Ah, elle est à l'envers. Alors, voilà. Voilà, donc trois quarts d'heure, donc jusqu'à 7h15. Ok. Bien. Bonsoir. Merci d'avoir été venu et merci de m'avoir invité, parce que j'arrive de Californie. Dimanche dernier, je suis toujours un petit peu jet-lagué, là j'ai très envie d'aller dormir, mais je pense que je vais me réveiller en parlant, et je suis sûr que les questions que vous allez me poser durant après ma présentation va me tenir éveillé. Je suis venu de Paris en train, c'était très agréable, je suis content d'être dans votre belle région, que je vois régulièrement sur les guignols de l'info. Je suis venu en train, pas en voiture électrique, sinon je ne serais pas là. J'ai intitulé mes remarques, enfin, j'ai un gros texte sur lequel je suis en train de travailler, c'est une traduction française d'un texte écrit en anglais qui s'appelle « La fabrique de l'État néolibéral ». Et je vais le lier avec le thème de ces journées de réflexion. D'abord, je voudrais dire aussi que j'aime beaucoup le format de ces journées de réflexion. Je trouve que de mettre ensemble des universitaires, des militants, des artistes, des cinéastes, et puis de faire s'entrechoquer tout ça, c'est très bien. Et c'est d'autant mieux que pour moi, c'est ce qui me stimule et ce qui me redonne de l'énergie quand je suis un peu fatigué dans mes travaux. Voilà, donc je suis très content d'être là. Donc je voudrais dans mes remarques vous donner non pas tant du grain à moudre que des instruments pour moudre votre propre grain. C'est-à-dire je voudrais vous donner un schéma analytique pour essayer de repenser qu'est-ce que le néolibéralisme. Et je vais vous décrire en fait ce qui a été mon propre cheminement. J'ai commencé à travailler. J'ai publié un livre il y a 10 ans et 4 mois qui s'appelait Les prisons de la misère, qui est publié par Raison d'agir édition, et qui analysait en 1999 donc l'internationalisation des slogans et des discours et des politiques punitives pénales inventées aux États-Unis dans le cadre de la lutte contre l'État social, contre l'État-providence, et qui suivait en quelque sorte la trajectoire de la circulation internationale de ces idées, par exemple la police dite de tolérance zéro. Et donc j'ai publié ce livre qui suggérait qu'il y avait un lien entre les politiques sécuritaires actives, agressives, la promotion de la police, de la justice et de la prison comme priorité de l'action publique, et le néolibéralisme. À l'époque, quand ce livre a paru, il y a donc 10 ans, certains de mes critiques en France ont dit « Oh, quand même, il ne faut pas exagérer, on n'en est pas là, ça c'est les États-Unis, c'est vraiment excessif, C'est pas en France qu'on va faire de la tolérance zéro, c'est pas en France qu'on va augmenter la population des prisons, c'est pas en France qu'on va faire, par exemple, des peines incompressibles automatiques. C'est pas en France qu'on va faire du plaidé coupable. C'est pas en France qu'on va faire de l'incarcération des jeunes délinquants. C'est pas en France qu'on va faire des camps militaires pour redresser les jeunes, etc. C'est pas en France qu'on va faire des couvre-feux pour adolescents. 10 ans après, malheureusement, le livre se vend toujours très bien. Il a été traduit en 20 langues, ce qui est rare pour un sociologue. Donc, du point de vue de l'analyste, c'est une satisfaction. Du point de vue du citoyen du monde, c'est plutôt déprimant de quasiment pouvoir faire le tour du monde en présentant les différentes éditions étrangères du livre pour arriver dans un pays et dire « Voilà, la vérole sécuritaire est arrivée. Je vais vous aider à essayer de contrecarrer ce développement. » Donc, quand j'ai écrit ce livre, je pensais, en fait, m'occuper de ce sujet 2 ans, 3 ans, juste le temps de faire ce livre, qui était une intervention dans le débat public pour donner des instruments pour justement résister à cette dérive sécuritaire venue d'Amérique. C'était l'époque, quand même, se rappeler, à la fin des années 90, où nos hommes politiques français, de droite comme de gauche, prenaient l'avion pour aller à New York, pour aller s'instruire sur comment faire de la vraie police et comment terrasser la criminalité, puisque l'Amérique avait soi-disant résolu le problème de la criminalité grâce à ces nouvelles techniques punitives. À l'époque, je pensais travailler 2-3 ans sur le sujet et revenir à mon terrain de prédilection, qui est les inégalités urbaines, la domination raciale. Et en fait, je me suis trouvé en quelque sorte happé par le phénomène même. Il s'est avéré que la circulation internationale de ce discours et de ces politiques sécuritaires était beaucoup plus avancée que je ne l'avais moi-même décrit dans ce livre, beaucoup plus de pays étaient touchés. Par exemple, vous imaginez, ma surprise, que le livre a été traduit en roumain. En roumain, j'ai été invité à aller à la télévision nationale pour présenter, aux heures de grande écoute, mes analyses, bon, comme je ne suis pas allé, ma traductrice en roumain a été invitée pour aller présenter le livre. Au Brésil, le livre a été cité dans des décisions de la Cour suprême visant à réorienter la politique pénale, etc. Donc, pour moi, c'était une très grande surprise de découvrir que la maladie que j'avais identifiée était à la fois plus grave, plus répandue, et en même temps, en voyageant dans une douzaine de pays pour présenter le livre et en discutant avec les chercheurs, les militants de ces différents pays autour des questions de justice criminelle et de justice sociale, il est apparu que le schéma que je présentais dans les prisons de la misère était en quelque sorte trop schématique, était trop simple, qu'il y avait beaucoup plus de filtres, qu'il y avait beaucoup plus de... Et en fait, que ce que j'avais présenté dans ce livre comme l'expansion et la glorification du bras punitif de l'État, de la police, de la justice et de la prison. Je l'avais présenté comme une conséquence du néolibéralisme. Donc, en quelque sorte, il y avait le néolibéralisme d'un côté, la dérégulation du marché, la résurgence des inégalités, comme conséquence, évidemment, la diffusion de l'insécurité sociale. Et puis, comme conséquence, il y avait... Ah oui, non, ça ne me dérange pas. Enfin, c'est pour vous de voir. Et donc, je présentais le déploiement des discours et des politiques sécuritaires comme, en quelque sorte, une conséquence du néolibéralisme. Et je pense que j'étais resté dans l'idéologie néolibérale. Ça va peut-être vous surprendre, mais je pense que j'étais encore prisonnier de l'idéologie néolibérale au sens où j'avais accepté l'idée que le néolibéralisme, c'est finalement un projet économique, c'est un mode d'organisation économique. Et maintenant, j'ai changé mon... Alors, donc, en réagissant à ces débats internationaux, je me suis trouvé, en fait, un peu contraint et forcé par devoir scientifique et civique de continuer mes investigations, de creuser plus profond. Et en creusant plus profond, j'ai écrit un second livre qui s'appelle, malheureusement, je suis obligé de dire le titre en anglais, qui s'appelle « Punishing the Poor ». The Neoliberal Government of Social Insecurity, qu'on peut traduire par « Punir les pauvres », le gouvernement néolibéral de l'insécurité sociale, qui malheureusement n'est pas le livre « Punir les pauvres » qui existe en France, puisque l'édition « Punir les pauvres » qui a été mise sur le marché en 2004 par les éditions Agone, est une édition contrefaisante, publiée sans contrat ni bon à tirer, contre ma volonté, avec un manuscrit complètement truqué et tronqué. Donc si vous l'avez, vous pouvez le renvoyer à l'éditeur. Et je vais donc m'appuyer sur la version, et si vous lisez les autres langues, vous pouvez le lire, la version anglaise, il existe aussi en italien, en allemand, en espagnol, en néerlandais, en portugais. Donc je vais m'appuyer sur Punishing the Poor, l'édition conforme et légale de mon travail, pour arguer que, en fait, l'idéologie néolibérale, c'est effectivement c'est le retrait de l'État, le retrécissement de l'État, l'avènement du marché. Mais en réalité, le néolibéralisme, ce n'est pas tant un projet économique qu'un projet proprement politique. C'est la construction d'un nouveau type d'État. Le néolibéralisme, c'est véritablement la fabrique d'un nouvel État, d'un État qui a un périmètre des missions et des priorités différentes de l'État fordiste, keynésien, qu'on a connu en gros pendant la période 1880-1980. Et que cet État néolibéral, en fait, donc le néolibéralisme, c'est vraiment, en fait, c'est un projet politique, voilà, c'est pas un projet économique. Et que, au sein de la construction de cet État, l'organe sécuritaire ou l'organe pénal, la police, la justice, la prison, sont en fait une des composantes, et non pas une des conséquences externes de l'avènement du néolibéralisme, mais une des composantes intégrales de l'État néolibéral. Donc vous voyez la différence d'analyse. Dans la première analyse, c'est le néolibéralisme est là, et une des conséquences, c'est l'activation des politiques sécuritaires, des discours sécuritaires, etc. Et mon analyse maintenant qui a changé, c'est qu'en fait, non, le néolibéralisme, c'est la fabrication. C'est un projet un projet politique transnational qui vise à réarticuler marché, État et citoyenneté. Mais pour effectuer cette réarticulation, il faut un agent, il faut une institution puissante qui va réorganiser ces rapports. Et cette institution, c'est l'État. Et donc, le vecteur principal du néolibéralisme, c'est l'État. C'est pas, donc on se représente le néolibéralisme comme étant contre l'État. On les voit dans un rapport, en quelque sorte, inverse. Si l'un grandit, s'il y a plus de néolibéralisme, il y a moins d'État. S'il y a plus d'État, c'est qu'il y a moins de néolibéralisme. Non. En réalité, le néolibéralisme, c'est la fabrication d'un État d'un type nouveau. Et cet État, je le caractérise comme étant libéral-paternaliste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je parle aussi d'un État centaure. C'est un État centaure parce qu'il a une tête libérale qui pratique le laisser-faire et le laisser-passer en haut, vers les classes privilégiées, vers notamment le capital, les grandes entreprises, les marchés financiers, comme on l'a connu jusqu'à ce qu'ils se foutent en l'air et qu'ils menacent la planète entière. Mais quand on regarde en bas, donc vous vous rappelez le centaure, ce tronc d'homme monté sur un corps de cheval. Le tronc, le haut, c'est le côté libéral, laisser faire, laisser passer. Donc relâcher les contraintes politiques, administratives sur la circulation du capital, etc. Mais par contre, et donc ça c'est au niveau de la production des inégalités, donc relâcher toutes les contraintes qui organisaient de manière historique, entre en gros pendant le siècle 1880-1980, le travail, la vie sociale, etc. Relâcher les contraintes en haut, mais quand il s'agit de gérer les conséquences de ce libéralisme en haut, en bas, quand on va en bas de la structure de classe, en bas de la structure ethnique, en bas de la structure des quartiers, etc., quand il s'agit de gérer et de faire face aux turbulences, aux désordres sociaux, à l'insécurité sociale générée par la dérégulation en haut, mais là, cet État, il ne s'avère plus du tout, il ne pratique plus du tout le laisser-faire et laisser-passer. Au contraire, il est interventionniste, panoptique, il surveille, il supervise, il dirige et il entend dicter même les comportements des classes populaires, des catégories précarisées, des récipiendaires d'aide sociale, des criminels. Et à ce niveau-là, il s'avère comme étant extrêmement autoritariste, enfin, paternaliste, d'où l'expression libéral, paternaliste, libéral en haut, paternaliste en bas. Pourquoi paternaliste en bas ? Parce que pour faire accepter la dérégulation en haut, pour faire accepter la croissance des inégalités, pour faire accepter la normalisation du salariat précaire en bas, pour faire accepter l'insécurité sociale diffuse qui se, qui se, qui se répand et qui se normalise pour ceux qui sont en bas de la structure des classes et qui n'ont pas les qualifications pour rentrer en compétition sur les secteurs encore protégés du marché du travail, eh bien, il faut bien imposer le nouvel ordre économique et moral émergent. Et pour cela, il faut un appareil d'État très conséquent. Et cet appareil d'État, il prend deux formes. Il prend, et je crois que la contribution, en tout cas, bon, au plan universitaire, au plan théorique, la contribution originale du livre Punishing the Poor, que vous m'excuserez de citer dans son titre anglais, pour ne pas induire en erreur avec l'édition contrefaisante. Dans Punishing the Poor, une innovation, c'est de réunir deux domaines d'analyse que d'habitude on analyse séparément. C'est l'analyse des politiques sociales et l'analyse des politiques pénales. Et donc là, ça m'amène aux quatre. Je vais vous mettre quatre principes. Alors pour comprendre, ce que je vais faire, comme d'habitude, j'ai préparé un texte et je m'en sers pas. Bon, ça c'est une véritable maladie, mais bon. En même temps, quand je prépare un texte dans le train, ça m'enlève l'anxiété d'avoir quelque chose à dire. Si je me casse la figure, je retombe sur mon texte. Bon, mais ça n'arrive pas souvent. Je vais vous donner quatre principes d'analyse et après je vais illustrer rapidement chacun de ces quatre principes, pourquoi ils sont importants. Et puis après je vais faire un zoom pour aller sur caractériser l'État néolibéral aujourd'hui. On en a eu d'ailleurs une très belle illustration hier avec l'allocution que le président de la République a prononcée. J'essaierai de vous dire, soit dans l'exposé, soit dans la discussion, comment on peut utiliser le cadre d'analyse que je propose pour essayer de comprendre les développements de la politique en France aujourd'hui. Alors, pour comprendre, donc pour insérer, je déteste avoir des pièces et des clés, je les mets là et après je les oublie. Donc, pour comprendre le thème de vos rencontres, surveiller, ficher, pénaliser. Pourquoi surveiller, ficher, pénaliser est devenu si important? Pourquoi l'État affirme que c'est une priorité, c'est une nécessité, et pourquoi on voit le développement accéléré de tous ces fichiers, alors que même que les conditions juridiques de leur usage ne sont pas établies, etc. Pourquoi, en quelque sorte, on met la charrue avant la charrue sécuritaire avant les bœufs? Comment comprendre ce développement? Alors, premier, il faut faire. Il faut que j'aille à mes notes, parce que comme je change d'une fois sur l'autre, je ne me souviens pas moi-même. Il faut faire quatre ruptures. Quatre ruptures qui m'amènent à une proposition. Alors, la manière traditionnelle d'essayer de penser les politiques sécuritaires, c'est de les voir en relation avec les tendances de la criminalité. Bon, on a tous dans la tête le schéma crime et châtiment, bon, même si on n'a pas lu Dostoïevski. Et il y a une discipline qui en fait est fondée sur ce couple, c'est la criminologie, qui en France, heureusement, n'est pas très bien développée, sauf qu'on a nommé récemment M. Bauer à une chaire de criminologie complètement fictive qui n'existe ni reconnue en France, mais bon. Première rupture pour arriver à comprendre le déploiement, la glorification, l'expansion des politiques et des discours tenant à la sécurité aujourd'hui en France, mais en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, dans tous les pays avancés, et dans les pays du second monde, parce que une des découvertes que j'ai fait, donc, c'est que les prisons de la misère, malheureusement, enfin bizarrement, s'appliquaient encore mieux aux pays qu'on dit pays du second monde, c'est-à-dire aux pays nouvellement industrialisés, par exemple la Turquie, l'Afrique du Sud, l'Argentine. Première rupture, il faut sortir du schéma crime et châtiment. Il faut sortir de ce schéma, pourquoi? Parce que nulle part au monde... Parce que j'ai une grosse voix depuis que je suis tout petit, mais je crois qu'ils enregistrent. Il faut sortir du schéma crime et châtiment. Pourquoi? Parce que nulle part au monde, il n'y a de corrélation entre l'évolution de la criminalité et l'évolution des politiques pénales qu'on peut mesurer, par exemple, au taux d'incarcération. Vous avez des pays dans lesquels il y a une criminalité très faible, assez basse, comme par exemple l'Espagne. J'étais lundi à Barcelone pour donner une conférence sur ce même thème aux élèves de l'école de police de Catalogne. Et le chef de la police de Catalogne, qui est beaucoup mieux éduqué que les chefs des polices françaises, a dit lui-même, l'Espagne est un paradoxe puisqu'elle a un taux de criminalité assez bas, parmi les plus bas d'Europe, et pourtant elle a le deuxième plus fort taux d'incarcération en Europe. Et un taux d'incarcération en Europe qui a triplé en 15 ans, alors que la criminalité est restée stagnante. Bon, on peut prendre des tas d'autres exemples. La Finlande a diminué son taux d'incarcation de 70% en 20 ans, alors que la criminalité est restée stagnante. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une décision politique visant à aligner la Finlande sur les pays occidentaux, et non pas sur les pays, c'était dans les fin des années 70, début des années 80, où le pays voulait marquer son appartenance au bloc européen et sa distance au bloc soviétique, et donc a engagé une politique de décarcération qui a permis de dégonfler la population pénitentiaire de manière draconienne. L'Allemagne, par exemple, ou le Canada sont parmi les rares pays au monde à avoir réussi à endiguer la montée de l'incarcération. Bon, pourquoi ? Ce sont des décisions politiques et culturelles. Ce sont des choix politiques et culturels, un type de société, un type de politique qui détermine combien vous avez de détenus, quel pourcentage d'incarcération. Donc, bon, et on peut le montrer dans le cas canonique des États-Unis, où aux États-Unis, si vous dessinez la courbe de la criminalité à partir de 1973 jusqu'à 93 et jusqu'à aujourd'hui, 2010, votre criminalité est stagnante et ensuite déclinante très fortement, et votre incarcération, qui était stagnante pendant 50 ans, monte en flèche pendant cette période. Donc il faut sortir de ce schéma et il faut comprendre le déploiement du vecteur pénal de l'État comme instrument pour faire quoi ? Là, on peut revenir à l'histoire sociale. Si on revient à l'histoire sociale, fin du XVIe siècle, quand il y a l'invention de la prison, le Bridewell de Londres, le Zuchthaus d'Amsterdam, l'hôpital général de Paris, ou dans les villes de la Hanse, du nord de l'Allemagne, l'invention de la prison ne visait pas à juguler le crime. Il visait à juguler la mendicité et la marginalité urbaine. Donc c'est la période de transition entre le féodalisme et le capitalisme, l'émergence des premières villes capitalistes commerciales dans lesquelles s'amassent les mendiants et les vagabonds, qui représentent un double problème, maintien de l'ordre dans la rue, et défi à la nouvelle organisation du travail. Il ne se plie pas à la discipline du travail salarié. Pourquoi ? Parce que le travail salarié était une innovation qu'on ne connaissait pas, et donc les gens y résistaient. Et donc, dans cette période-là, les pays européens inventent deux institutions. L'aide aux pauvres, poor relief, et la prison, en même temps. Invention conjointe. Et on a là quoi ? Les deux bras de l'État. La main sociale et la main pénale. Ça nous amène à la deuxième rupture. Pour arriver à comprendre, donc il faut sortir du schéma crime et châtiment, comprendre que l'appareil pénal, il est là pour gérer les populations, alors on peut dire, moi j'aime bien dire, c'est une jolie formule, les populations et les territoires à problème. Alors après on peut dire à problème, quel problème ? Ben, ça dépend de qu'est-ce qui est problématisé. Par exemple, ça peut être les sans-abri, ça peut être les quartiers populaires, qui quand il y avait le plein emploi n'étaient pas des quartiers à problème, mais quand il y a le plein chômage, soudain deviennent des quartiers dits sensibles. Aïe, quand on touche, ça fait mal. Donc, deuxième proposition, il faut relier politique pénale et politique sociale. Alors, donc, et c'est ça qui m'a fait dire tout à l'heure, s'il y a une innovation du livre Punishing the Poor, c'est qu'il rejoint ces deux domaines qui sont en général étudiés par des spécialistes séparés. C'est-à-dire vous avez des tas de sociologues, anthropologues, politologues, etc., qui travaillent sur les politiques sociales, le passage du welfare, le droit à l'assistance sociale, à l'aide sociale pour protéger des sanctions du marché du travail, au workfare, ce qu'on appelle les politiques dites actives, les politiques sociales d'activation de quoi ? Politiques sociales qui ne sont plus un droit du citoyen à résister ou à ne pas se soumettre à la dictature du marché, mais qui sont désormais des programmes qui sont conditionnés au fait, quand on vous donne une allocation, si vous acceptez de vous présenter sur le marché du travail, si vous acceptez de rentrer dans un programme de formation qui vous amène à un emploi, etc. Et comme on l'a, c'est le passage du RMI au RSA. c'est la version française du workfare. Ou vous avez une allocation qui est un peu plus élevée, mais qui est désormais conditionnée à une obligation d'orientation vers le marché du travail. Et éventuellement, quand on vous proposera deux offres d'emploi qui sont dans le cadre qui a été défini comme correspondant à votre profil, si vous refusez la deuxième, votre aide peut être diminuée. Éventuellement, votre aide peut être supprimée. Donc là, on voit le passage à une aide sociale qui est conditionnelle, qui rentre dans une logique, non plus, c'est plus une logique civique, c'est-à-dire toute personne a droit à cette aide. Non, c'est une logique contractuelle. Chaque individu rentre dans une espèce de relation contractuelle avec l'État et est soumis, bien entendu, à un fichage, une surveillance, etc., puisqu'il y a désormais une obligation comportementale. Il faut avoir certains comportements qui correspondent aux obligations, aux devoirs du récipiendaire vis-à-vis de l'État. Donc, une des thèses centrales de Punishing the Poor, l'ouvrage légal et conforme, c'est qu'il y a un lien intelligible et il y a une cohérence entre le passage du welfare au welfare comme droit à l'assistance sociale, à l'aide sociale, à être protégé des sanctions du marché du travail, à l'obligation de s'orienter vers le marché du travail, et le déploiement des politiques pénales. Les unes deviennent restrictives et les autres deviennent expansives. Et ma thèse, c'est que il y a en fait un couplage des politiques sociales restrictives, disciplinaires, puisque désormais il y a un appareil de supervision des récipiendaires visant à les pousser sur le marché du travail, donc visant à leur faire accepter le salariat précaire. Puisque au bout du cheminement, il y a un emploi qui, si c'était un emploi bien payé et désirable, il y aurait longtemps qu'il serait déjà pris. Il n'y aurait pas besoin de faire tout un dispositif pour forcer les gens à l'accepter. Donc, on a des politiques sociales restrictives, dans ce que j'appelle le welfare restrictif, bon, en français, traduisait le RSA, et ce que j'appelle, là aussi, le prison fare, en créant, en quelque sorte, un concept à partir de prison. Vous voyez, en anglais, ça donne welfare. Je crée la notion de prison fare, qui est en fait le déploiement de l'appareil pénal pour juguler les désordres sociaux créés par la dérégulation économique et le retrait de l'aide sociale. Et donc, ma thèse, c'est qu'il y a une sorte de couplage entre l'aide sociale restrictive et disciplinaire et, en quelque sorte, on peut dire, l'aide pénale expansive ou le déploiement de politiques pénales agressives et expansives qui, en fait, visent les mêmes populations. Et j'appuie cette thèse sur trois éléments. Premièrement, l'élément historique que je viens de mentionner. Quand on regarde à l'origine historique de l'invention de l'aide sociale, l'aide aux pauvres, et l'invention historique de la prison, on découvre que, bizarrement, ils sont inventés à la même époque pour traiter des mêmes populations. Deuxièmement, on observe que ces politiques donc d'aide sociale disciplinaire et de contrôle pénal actif utilisent de plus en plus les mêmes techniques de stigmatisation, de surveillance, de fichage, d'obligations comportementales, de sanctions graduées en fonction de remplir ou non les obligations qui sont listées sur une espèce de code de conduite auquel doit s'engager, d'une part, le détenu ou le repris de justice quand il est soumis à une libération conditionnelle où il reste sous surveillance, sous main de justice. Et de l'autre côté, les récipiendaires de l'aide sociale, qui sont eux aussi soumis à une série d'obligations, de comportements, eux ou leurs enfants. Comme par exemple, quand on dit on va retirer les allocations familiales, c'est ressorti hier dans l'allocation du président. Cette fois-ci, vraiment, on va le faire. Hein, les enfants qui ne vont pas à l'école, on va retirer à leurs enfants les obligations. Donc, on va transformer les allocations familiales, qui sont a priori dans le code de la famille, ce qui sont un droit universel de toutes les personnes qui ont des enfants, quel que soit leur comportement. On va en faire une aide conditionnelle au fait que les parents remplissent leur obligation de tenir leurs enfants et de les envoyer à l'école. Vous voyez ? Et donc, même origine historique, même schéma d'opération, même technique de déploiement, même discours, même philosophie. Alors, c'est une philosophie que j'appelle la philosophie du behaviorisme moraliste. C'est-à-dire, c'est une philosophie behavioriste au sens où on va mettre des carottes et des bâtons et on va contrôler le comportement des individus en modulant les uns et les autres. Alors, dans cette phase, c'est évidemment de plus en plus de bâtons et de moins en moins de carottes. Hein, mais c'est l'idée qu'on peut contrôler, on peut diriger le comportement alors des populations soumises à ces programmes en modulant les sanctions et les récompenses. Et je dis behaviorisme moraliste parce qu'il est empreint d'une vision moraliste où ce que doit démontrer le récipiendaire de l'aide sociale, ce que doit démontrer le délinquant ou le repris de justice quand il est toujours soumis à surveillance, ou le délinquant sexuel quand il est sorti et qu'on va le soumettre à 500 ans de surveillance et de contrôle, etc., c'est qu'il doit démontrer qu'il accepte la morale collective, qu'il s'engage dans une action qui montre son acceptation des codes moraux de la société. Et troisième élément qui me fait arguer cette thèse de la convergence entre les politiques sociales disciplinaires restrictives et les politiques pénales expansives, c'est que, je l'ai dit, elles traitent de la même population. Quand on regarde le profil, alors aux États-Unis, c'est particulièrement frappant. Aux États-Unis, il y a aussi cette particularité que, comme les aides sociales sont très limitées et sont catégorielles, visent certaines populations dépendantes, il n'y a pas d'aide sociale généralisée donnée à tout le monde. Comme les allocations familiales, par exemple. Les aides aux pauvres sont toujours des programmes très stigmatisants et ils visent essentiellement, pour des raisons historiques, ce serait trop long d'aller dedans, les femmes. Et donc, dans le cas des États-Unis, on a même une division de genre très marquée, mais elle tente à exister dans les autres pays, qui est que les politiques sociales restrictives visent les femmes et les enfants, par le biais de la famille notamment, et les politiques pénales restrictives visent les hommes. Et ce sont les hommes de ces femmes. C'est-à-dire, ce ne sont pas simplement des hommes dans un coin et des femmes de l'autre. Ce sont les frères, les maris, les fils, les cousins des femmes qui reçoivent l'aide sociale. Aux États-Unis, les femmes qui reçoivent le workfare, qui les obligent à aller se présenter sur le marché du travail, à accepter un emploi déqualifié sur lequel elles et leurs enfants ne peuvent pas survivre. Mais elles ne sont plus dans les statistiques des récipiendaires du welfare. Elles ont disparu dans le marché du travail déqualifié, elles sont toujours pauvres. La réforme du welfare de Clinton en 1996 n'a pas entamé d'un millimètre le taux de pauvreté aux États-Unis, mais le nombre de récipiendaires du principal programme d'aide aux démunis, Aid to Families with Dependent Children, AFDC, c'est un programme qu'on appelle AFDC, il y avait 5 millions de récipiendaires en 1996, il n'en reste plus qu'un million et demi. On dira, mais où sont passés les 4 millions et demi de familles qui recevaient ça? Elles ont disparu. Taux de pauvreté, 20% en 96, 21% aujourd'hui. Mais les pauvres ont disparu. Ils ont disparu au sens où ils ne sont plus au crochet de l'État, ils ne sont plus au crochet du contribuable. On les a invisibilisés en déployant une politique sociale qui n'a en rien entamé la misère, mais qui a rendu les pauvres moins visibles et moins demandeurs. Alors, aux États-Unis, donc ces femmes, d'un côté, qui reçoivent, quand elles la reçoivent, parce que les deux tiers d'entre elles ne reçoivent plus rien, quand elles reçoivent le welfare, ce sont leurs maris ou leurs fils ou leurs frères qui sont, eux, soumises au déploiement gargantuesque de l'État pénal aux États-Unis, puisque les États-Unis ont multiplié par 5 leur population carcérale, leur taux d'incarcération en 25 ans, entre 73 et aujourd'hui. Ils ont à ce jour 2 400 000 détenus, ce qui représente 760 détenus pour 100 000 habitants, alors la France a aujourd'hui à peu près 100, et qu'il faut savoir que un homme noir sur 10 est derrière les barreaux, et que si on compte la probabilité d'aller en prison sur la durée de sa vie, 60% des hommes noirs qui n'ont pas terminé leurs études secondaires purgeront une peine de prison, une ou plusieurs peines de prison, durant leur existence. Donc ça veut dire que pour les Noirs du sous-prolétariat, aller en prison est devenu un événement normal au sens statistique, c'est-à-dire qui touche la majorité des membres de cette catégorie-là. Donc là, on le voit, alors c'est pour ça que dans le livre, j'utilise les États-Unis en quelque sorte comme alambic historique, où on voit développer de manière particulièrement dramatique et hypertrophique cette politique. Mais l'argument, c'est que partout, alors on peut aller en Angleterre, on peut venir en France, alors, et on peut discuter d'ailleurs des différences. la différence principale. Mais partout, on ne peut pas comprendre le déploiement des nouvelles politiques et des nouveaux discours sécuritaires sans les lier aux transformations des politiques sociales. Et inversement, on ne peut pas comprendre les transformations du RSA, etc., sans les lier aux transformations de l'autre branche de l'État. Donc il faut relier le bras social et le bras pénal de l'État. Ça, au niveau de l'analyse, et mon argument normatif, ou pour les gens qui veulent lutter contre ce développement, s'il y en a dans la salle, c'est, l'idée, c'est qu'il faut relier les actions, il faut faire une jonction entre les gens qui luttent pour autour des questions de prison, de justice criminelle, et les gens qui luttent autour des questions d'emploi, et les gens qui luttent autour des questions de RMI, RMA, RSA, etc. Donc il faut faire une jonction entre tous ces différents secteurs. Alors troisième, donc ça c'est le deuxième point. Troisième rupture, alors là c'est une rupture, c'est, je m'excuse de faire peut-être un excursus un peu académique, là, mais je vous ai dit, je ne veux pas vous donner du grain à moudre, je vais vous donner une machine pour moudre votre propre grain, donc ça veut dire des instruments d'analyse. Dans la traduction sociologique, il y a une opposition très forte entre deux écoles quand on analyse la pénalité, hein, donc les discours, les catégories, les politiques pénales. Il y a une opposition entre l'école descendue de Marx et Engels, et après la criminologie dite radicale, qui a été inspirée par les travaux de Marx et Engels, qui on peut caractériser comme une tradition matérialiste. Cette tradition matérialiste, elle dit quoi? Elle dit, l'appareil de justice, c'est un instrument. C'est un instrument qui sert à contrôler. À contrôler quoi, ben les pauvres, les ouvriers, les populations défavorisées, etc. Donc, c'est un instrument de contrôle. Et donc, c'est une vision instrumentaliste, ou c'est la vision un peu classique du matérialisme historique de l'État. L'appareil d'État est un instrument que la bourgeoisie utilise pour raffirmer les rapports de classe, asseoir son hégémonie, etc. Donc, appliqué au secteur pénal, ça donne... L'appareil de justice criminelle est un instrument pour effectuer le contrôle des populations défavorisées, asseoir l'inégalité, renforcer... Et c'est vrai, depuis l'origine, les prisons n'ont jamais renformé que des pauvres. Pourtant, il n'y a pas que des pauvres qui commettent des crimes. Mais quand on regarde comment la loi pénale est constituée, comment elle est appliquée, etc., ben on observe que toutes les possibilités de s'échapper, par exemple... Toute la criminalité d'entreprise, Monsieur Sarkozy, en arrivant à l'Élysée, a annoncé immédiatement, je pense que vous vous rappelez, c'est assez frais dans les mémoires, en 2007, à peine élu, les premières mesures qui ont été passées ont été des mesures de lutte contre la délinquance des jeunes, avec le vote d'une loi qui élargissait le recours à la prison contre les adolescents, qui établissait une peine minimale incompressible, qui en fait est un pur... qui est un fauné, puisqu'elle ne peut être appliquée que dans des circonstances totalement extravagantes, mais c'est fabuleux pour faire de l'affichage. Et il a annoncé, je ne sais pas si vous vous rappelez, le 1er 14 juillet, la première cérémonie annuelle, il n'y avait pas le discours du président auquel on s'était un peu habitué, mais il y avait à la place une garden party à l'Élysée où étaient conviés qui ? Les héros de la nation. Qui étaient les héros de la nation ? Les victimes de crimes. Donc il y avait une promotion des victimes du crime en tant qu'emblème de la citoyenneté, en quelque sorte. Et pourquoi je suis parti sur cette tangente-là Et il avait annoncé parallèlement, voilà, donc ça c'était pour la délinquance. Alors, et tout le monde a compris que quand on dit la délinquance des jeunes, il ne s'agit pas des jeunes fils de ministres. Il ne s'agit pas des jeunes des quartiers huppés, il s'agit bien entendu des jeunes des quartiers. Pas des quartiers huppés, des quartiers. Quand on dit quartier sans rien derrière, ça veut dire les quartiers populaires de la périphérie urbaine, mis en jachère économique et sociale par 30 ans de politique de dérégulation économique et par la montée du chômage de masse et de la précarité salariale. Donc, au moment même où M. Sarkozy nous... engager le pays dans la pénalisation de ces formes de délinquance, il annonçait qu'il fallait dépénaliser le droit des affaires. Donc, dépénaliser le droit des affaires, ça veut dire évidemment qu'on crée un biais de classe qui est inscrit dans la loi même, puisque la criminalité astucieuse, la criminalité en col blanc, la criminalité d'entreprise, etc., sera, elle, soumise à des procédures d'arbitrage, à des procédures civiles qui font que les entreprises paient des amendes et circulent et continuent et violent la loi 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, ou continuent même au même moment. On l'a vu aux États-Unis avec les scandales des années 60, les savings and loans qui avaient mis le système financier au bord de la banqueroute en 88-89, et qui se renouvelle avec Enron en 98 et qui se renouvelle en 2008 avec le crash financier. Le crash financier, personne, si, Madoff, Bernard Madoff, qui a servi en quelque sorte d'alibi au fait que, à part Bernard Madoff, pas grand monde a fait de la prison pour toutes les malversations financières qui ont mis l'économie du monde au bord du gouffre. Donc l'analyse matérialiste, elle est fondée, mais elle est très limitée. Et en face de ça, il y a une deuxième tradition, qui est la tradition qui vient de Durkheim. Donc l'une vient de Marx, et l'autre vient du père ennemi. Mais notre père à tous, Émile Durkheim, fondateur de la sociologie. Et Émile Durkheim, dans un grand ouvrage de la division sociale du travail, propose une analyse de la pénalité, où il dit... Le châtiement, et notamment l'appareil répressif de l'État, remplit non pas un rôle instrumental, rationnel, de contrôle, de comportement, et de renforcement, de maintien des inégalités de classe, de discipliner le prolétariat, etc. Il joue des fonctions expressives. Donc, en face de la théorie matérialiste, on a une théorie symboliste, où l'appareil de justice sert à envoyer des messages, à capturer et à activer des émotions, à tracer des frontières, à créer un sentiment de communauté, nous qui respectons la loi, contre eux qui la violent. Hein. Et il faut dire que l'analyse durkheimienne est tout à fait fondée. Et pour Durkheim, la cible du châtiment n'est pas le criminel. La cible du châtiment, c'est le public qui regarde le châtiment et qui voit et qui entend le message qui dit... Voilà les règles que nous allons respecter et voilà ce qui attend, voilà le sort qui attend, voilà la sanction qui sera exercée contre celui qui viole ces règles. Donc là, on a une fonction expressive de communication donc qui est en quelque sorte, et rituellement, il y a une opposition entre les criminologues d'obédience marxiste. Alors ça donne, c'est ce qu'on appelle l'économie politique du châtiment. Et là, c'est l'analyse symboliste de la création des frontières, de l'affirmation des communautés de valeurs. Et il y a une espèce de bagarre rituelle entre ces deux camps. Et moi, ma position, ça consiste à dire, mais vous savez, l'appareil pénal, il est suffisamment complexe pour arriver à jouer ces deux fonctions-là en même temps. Et il peut à la fois envoyer des messages... communiquer des émotions ou activer des émotions, tracer des frontières symboliques, créer un sentiment du nous contre eux, on le voit très bien dans toute la manière même de parler du sujet des politiciens, et en même temps, il peut servir à discipliner des populations précaires, à entreposer des populations surnuméraires, et à raffermir une structure de classe qui se désagrège ou qui risque d'être contestée en bas. Et donc ma seule innovation, ça consiste à dire que il faut marier l'analyse matérialiste et l'analyse symboliste et comprendre en même temps les fonctions de contrôle et les fonctions de communication de l'appareil de justice. Ce qui permet de ne pas s'enfermer dans les limites de l'une ou de l'autre, et de comprendre, par exemple, pourquoi le pédophile est devenu, dans l'ensemble des pays avancés, un sujet d'inquiétude collective et d'action judiciaire prioritaire. Alors que, je le montre dans le livre, Punishing the Poor, vous avez d'excellentes statistiques, qui montrent que, dans tous les pays avancés, on observe une décroissance régulière des violences sexuelles contre les femmes, contre les hommes, contre les enfants. Et donc, le paradoxe, c'est qu'on a une décroissance continue et que cette décroissance en quelque sorte, se passe au même moment où on a une explosion des dispositifs et de l'inquiétude et des discours de vitupération contre les délinquants sexuels, généralement représentés, quand on dit délinquants sexuels, ça pourrait être des tas de choses, mais qu'on se représente toujours comme un pédophile, qu'on se représente généralement comme quelqu'un d'isolé, un misfit, un vagabond qui est désintégré, pas un bon père de famille qui abuse son enfant. Alors que, là encore, toutes les études montrent que 80% des atteintes sexuelles contre les enfants sont le fait de personnes qui sont dans l'intimité de l'enfant, soit la famille, soit les voisins, soit les amis directs de la famille. Donc, pourtant, dans l'ensemble des pays contemporains, on observe que cette figure du pédophile, donc, qui est devenue absolument centrale, est toujours représentée comme un isolat social. C'est toujours représenté comme un vagabond, un sans-abri, qui est venu et qui va menacer votre enfant. Et donc, quand il a purgé sa peine et qu'il ressortira de prison, il faut le surveiller, il faut qu'il aille pointer à la police, il faut qu'il aille... Aux États-Unis, il y a tout un système, il y a une loi qu'on appelle la loi de Meghan, qui a créé non seulement l'obligation pour les ex-délinquants sexuels qui ont purgé leur peine entièrement, qui sortent, qui normalement, s'ils avaient commis un autre crime, auraient le droit de disparaître dans l'anonymat. Désormais, ils sont tenus non seulement d'être enregistrés dans un registre, d'aller pointer tous les ans auprès de leur commissariat, mais leur identité, le lieu où ils habitent, etc., sont rendus publics. Il y a des sites internet qu'on peut consulter pour voir où habitent les délinquants sexuels dans mon quartier. Est-ce qu'il y en a ? La police vient et distribue des tracts donnant l'identité, la photo. Dans certains États, les juges peuvent imposer à un ex-délinquant sexuel d'avoir sur sa voiture un macaron identifiant qu'un délinquant sexuel conduit cette voiture. Et la Californie et une quinzaine d'autres États viennent de passer une série de lois limitant le droit de résidence des délinquants sexuels, expurgeant les délinquants sexuels de tous les endroits susceptibles d'accueillir des enfants. Donc ça veut dire qu'un ex-délinquant sexuel qui peut avoir commis une atteinte mineure, qui peut avoir été en fait avoir eu, par exemple, des relations consensuelles entre deux mineurs, peut se traduire dans la loi américaine par une accusation de ce qu'on appelle statutory rape, techniquement un viol. Si vous êtes un jeune de 15 ans, votre petite amie a 15 ans aussi, vous avez des rapports sexuels, le père porte plainte, vous tombez et vous faites purger une peine pour viol. Bon, ça peut s'être passé il y a 40 ans. Ben, vous êtes toujours enregistré, vous êtes toujours tenu enregistré, et aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'habiter à moins de 300 mètres, non seulement d'une école ou d'une garderie, mais aussi d'une bibliothèque, d'un sentier nature, d'un parc public, d'un arrêt de bus. Ce qui fait que, de loin en loin, avec ces lois, dans la plupart des villes de Californie, les délinquants sexuels ne peuvent plus habiter, les ex-délinquants sexuels ne peuvent plus habiter nulle part dans la ville. Et parfois, des bons pères de famille, complètement réintégrés, d'abord leurs enfants découvrent, à cause de la publicité, que leur père a été condamné, ce qui n'est pas pour aider l'ambiance familiale, j'imagine, mais aussi certains doivent la nuit partir pour aller dormir à l'extérieur de la ville, et certains même organisent des camps de sans-abri sous les ponts, où ils vont dormir la nuit, puisqu'ils sont interdits de résider dans leur propre habitation. Donc, pour comprendre ça, alors allez comprendre ça avec l'analyse de l'économie politique du châtiment de type marxiste, c'est incompréhensible. C'est là, dans ce cas-là, il faut faire rentrer en compte justement cette dimension symbolique qui est que pourquoi les pédophiles sont devenus aussi saillants dans l'imaginaire collectif. C'est parce qu'il y a, pour aller très vite, hein, et je vous renvoie au chapitre 7 de Punishing the Poor, pour lire l'analyse en détail, parce que là, ça me mènerait trop loin, mais en gros, l'analyse, c'est ça. C'est qu'il y a un ensemble de forces qui, en fait, fragilisent la famille. Et il faut que la famille se reproduise. Et ces tensions sur la famille qui viennent principalement du salariat, qui viennent de deux sources. Du salariat, papa et maman travaillent tous les deux. Tout le monde rentre tard le soir. Il y a des heures impossibles. On travaille maintenant... Si maman est caissière, elle rentre le soir à 21h, papa travaille la nuit, les enfants, bon, le ménage, quand même, c'est un peu dur. En plus de ça, il y a la transformation des rapports de genre, qui a beaucoup fait turbuler la cellule familiale. Il y a l'éclosion des sexualités plurielles et leurs revendications dans l'espace public, etc. Donc tout ça, ça crée un sentiment de vulnérabilité, de fragilité de la famille, qu'on expulse à l'extérieur et qu'on projette sur une figure qu'on représente comme extérieure à la famille par définition, qui est le pédophile. Et donc, les politiciens se servent en quelque sorte. Donc, dans nos sociétés travaillées par la résurgence des inégalités, par la diffusion de l'insécurité sociale, qui sont travaillées par des courants d'anxiété sociale très, très puissants, liés à l'insécurité sociale objective en bas et à l'insécurité sociale objective au milieu, la peur de la chute, eh bien, les politiciens habiles capturent ces courants d'anxiété collective, c'est là qu'on voit l'analyse durkheimienne est très utile, et utilisent l'appareil pénal pour la fixer sur ces figures représentées comme des figures extérieures, externes. Le délinquant sexuel, par définition, c'est l'autre, c'est jamais nous, c'est pas votre voisin, votre cousin, votre neveu, votre frère. Alors, donc, là, il faut donc relier analyse matérialiste et analyse symbolique. Voilà, c'est ça que je voulais dire après. Ça, c'est très important, surtout dans le milieu militant, et peut-être ça va peut-être vous choquer, mais que je dise ça, mais il faut que je le dise. D'autant que l'édition contrefaisante du livre dit l'inverse sur la couverture, donc c'est d'autant plus important que je le dise. Dans la couverture, il est dit, la quatrième de couverture, si je m'en rappelle, dit « Ce livre appelle à une mobilisation civique contre le programme sécuritaire. » Mais mon livre argue qu'il n'existe pas de programme sécuritaire. Il n'y a pas de programme sécuritaire, c'est une lubie. C'est une lubie, d'ailleurs on le voit bien dans l'incohérence des mesures. S'il y avait un programme sécuritaire, il y aurait 15 mesures annoncées, on les place et ça y est. Mais tous les ans, tous les 6 mois, on nous ressort une loi. On ressort une loi et une autre, elles sont complètement en contradiction les unes avec les autres. On réforme, on n'a pas encore promu les décrets d'application de la dernière loi contre la sécurité, qu'on est en train déjà de réformer la justice, d'enlever le juge d'instruction, de passer une autre loi, et déjà, on nous a promis hier de nouvelles mesures. Donc, en fait, il n'y a pas de programme sécuritaire, il y a une pornographie sécuritaire, c'est très différent. Une pornographie sécuritaire, ça veut dire que les discours et les mesures sécuritaires qui sont proposées sont à un programme politique ce que la pornographie est à l'amour. C'est-à-dire, la pornographie, c'est quoi ? C'est, par définition, c'est de s'engager dans des actes sexuels, d'organiser des actes sexuels dans le but de les montrer. Le but de la pornographie, c'est d'être vu. C'est pas le contentement des personnes qui s'engagent dans cet acte. C'est le fait d'être vu, d'être consommé comme un spectacle. Et la frénésie sécuritaire qu'on connaît depuis 15 ans maintenant, bon, mais particulièrement depuis 2002, ou depuis 97, soyons justes, hein, parce que c'est quand même Jospin qui nous a amené cette vérole, qui a légitimé ce glissement et qui, de ce fait, a en quelque sorte savonné la planche pour qu'on descende encore plus bas. Mais la pornographie sécuritaire, c'est annoncer des mesures, faire des mesures pour être vu agissant contre l'insécurité. Ce n'est pas une politique rationnelle de lutte contre le crime, ça, on n'a rien à foutre. Parce que si on avait une politique de lutte qui, en fait, faisait réellement reculer, par exemple, la criminalité, ben, on n'aurait plus rien à faire et à dire. Il faut être, en quelque sorte, être vu agissant contre la menace. Et donc, c'est totalement différent. Alors, en France, c'est le mythe du programme sécuritaire, il faut lutter contre le programme. Il n'y a pas de programme sécuritaire. Il y a une esbroufe, il y a une fumée sécuritaire qu'on nous jette au visage et qui cache quoi ? Le remodelage de l'État. Et là, bon, j'en viens à... Et alors, donc, c'est le quatrième principe, il faut sortir de la trope de la répression. Et c'est ça qui nous amène à mon point principal. Il faut... Traditionnellement, on pense le sécuritaire sous la notion d'interdit, de la répression. La police, la justice, la prison, ils sont là pour réprimer. Alors là, c'est là que je prends mon inspiration chez Foucault. Mais pas le Foucault de surveiller et punir, le Foucault de l'histoire de la sexualité. Dans l'histoire de la sexualité, bizarrement, Foucault dit, quand on étudie l'émergence des discours autour de la sexualité au XIXe siècle, dans l'Angleterre victorienne, on étudie en fait l'invention d'un nouveau rapport à soi, l'invention d'une nouvelle conception des pratiques sexuelles, le fait que tous les individus ont une sexualité, que c'est un problème pour eux et pour la société, etc. Tout ça, c'est ce discours-là qui... qui crée la sexualité. Ce discours, il est productif de la sexualité. Ce discours, il ne réprime pas quelque chose qui existait avant, mais il fait émerger et il apprend aux citoyens, il crée des nouvelles subjectivités où les gens disent ben, « j'ai une sexualité ». Alors qu'avant, les gens avaient ben, un sexe, un corps, des organes, de la chair, des plaisirs, etc. Mais ils n'avaient pas une sexualité. La sexualité émerge quand il y a un discours qui génère la catégorie, génère l'inquiétude publique, privée, etc., l'enseigne aux gens, etc. On fera de l'éducation sexuelle à l'école. Bon, ce n'est pas un instrument de répression. L'éducation sexuelle à l'école, c'est ça qui fabrique la sexualité telle qu'on la connaît comme objet historique aujourd'hui. Ben, moi, j'applique ce raisonnement à l'état pénal. Je dis l'état pénal, ce n'est pas un instrument de répression, c'est un instrument de production. C'est un instrument de production. Il va produire quoi ? Ben, il produit des nouvelles catégories. Il y a la catégorie du quartier sensible, il y a les catégories du sauvageon, il y a la catégorie du pédophile, la catégorie du récidiviste, du délinquant récidiviste qu'on nous a réactivé puisqu'il existait de la fin du 19e siècle de l'anthropologie raciste italienne. Mais donc, il faut sortir de la trope de la répression et penser que, et réaliser que, en fait, les discours et les pratiques sécuritaires relève de la production, production de nouvelles catégories, production de nouveaux types sociaux, production de nouveaux organes bureaucratiques par lesquels l'État va pénétrer la société, la réguler, la superviser, etc. Et production, en dernier recours, bah, d'un nouveau type d'État. Et c'est là qu'on vient à ma proposition numéro 1 pour tout ça. Donc tout ça, ça c'est les principes d'analyse. Donc sortir du discours crime et châtiment, relier politique sociale et politique pénale, tenir ensemble les fonctions matériel, instrumental de contrôle de l'appareil pénal et les fonctions symboliques d'expression, d'activation des sentiments, sortir de la trope de la répression, le pénal, c'est pas là pour interdire, c'est là pour produire de la réalité sociale, pour produire de la réalité sociale et produire notamment un État. Alors là, maintenant, on arrive à la conclusion, enfin, à la proposition principale. Le néolibéralisme, c'est pas l'avènement du marché. Le néolibéralisme, c'est la fabrication d'un nouvel État, donc je l'ai dit, État centaure, un État centaure, libéral paternaliste, libéral en haut, paternaliste en bas. Par exemple, aucun politicien n'a proposé de limiter les allocations familiales des personnes qui possèdent des actions et qui ont, par exemple, se sont rendus coupables de délits d'initiés. On ne dit pas, si vous commettez des crimes en haut, nous allons limiter vos allocations familiales. Non, c'est toujours, bizarrement, c'est toujours ceux d'en bas dont on va limiter les droits sociaux en lien avec leurs activités. Donc, le paternalisme, il est uniquement en bas de la structure des classes et des places, et le libéralisme, le laisser-faire et le laisser-passer, il est uniquement en haut. Donc, en haut, au niveau de la genèse des inégalités, on va donc relâcher les contrôles de l'État et ça se traduit donc par une montée des inégalités, une généralisation de la précarité, donc une diffusion de l'insécurité sociale. Et en bas, par contre, au niveau des conséquences, là, on va être au niveau des conséquences de ces inégalités et des turbulences que crée... Ah, inégalité. Là, par contre, l'État intervient avec deux moyens, avec la main gauche et la main droite en même temps. Alors, je regarde quand même pour pas... Ah, j'ai dépassé ma temps de parole. Alors, je vais finir en 5 minutes, en vous donnant la clé. Et la clé, alors, en fait, bon, il faut quand même que je le dise, parce que surtout pour ceux qui sont... Est-ce qu'il y a des sociologues parmi vous ? Bon, quand même, il faut que je le dise, que l'outil qui permet de faire ces 4 ruptures d'un seul coup... C'est le concept de champ bureaucratique chez Bourdieu, que Bourdieu a introduit dans ses cours du Collège de France sur l'État, qu'il a développé dans son livre « Les structures sociales de l'économie » et qui permet de faire ces 4 ruptures d'un seul coup et de tenir ce que lui appelle dans son livre « Raison d'agir édition intervention ». Donc comment c'est le premier petit livre Contrefeu, voilà, Contrefeu 1. Il dit qu'il y a la main gauche et la main droite de l'État. Alors, la main gauche, c'est quoi ? C'est la main sociale de l'État. C'est représenté par le ministère de l'Éducation, du Logement, du, du droit du travail, de l'aide sociale, sont les ministères qui aident et qui apportent soutien et protection aux populations démunies de capital économique et culturel. Et la main droite de l'État, c'est la main qui discipline, c'est la main qui dans Bourdieu, c'est le ministère de l'économie, des finances et le ministère du budget. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que je rajoute, mais il n'y a pas que le ministère du budget qui discipline. Il y a aussi, en France, ça correspond au ministère de l'Intérieur, la police, et au ministère de la Justice, les tribunaux et les prisons. Et donc, je réinsère le bras pénal d'État comme partie du bras droit. Et donc, j'ai que la régulation des fractions précarisées du prolétariat post-industriel, elle s'opère non plus par le seul biais de l'aide sociale ou de la régulation sociale, mais elle s'opère par deux bras, par les deux bras en même temps, bras social et bras pénal. Et donc, on a... je vais vous donner là... Oui, deux schémas, ça a terminé. Alors là, c'est... Je peux vous dire que 15 ans de travail résumé en deux schémas. Alors, tenez-vous bien. Le néolibéralisme, c'est en fait l'articulation de trois éléments. Premièrement, ce qu'on va appeler, pour aller très vite, dérégulation économique. En fait, la dérégulation économique, c'est une re-régulation. C'est jamais une dérégulation, mais bon. Dérégulation économique. La dérégulation économique, elle se traduit par quoi ? Ben, sur le marché du travail, par la montée du travail à temps partiel, du travail précaire, du travail à contrat à durée déterminée, des emplois sous-payés, des petits boulots, etc. C'est quoi ? C'est l'insécurité sociale. Insécurité sociale, donc, dont j'ai dit objective en bas pour les familles de classe populaire et subjective pour les familles de la classe moyenne qui ont peur, d'une part, de tomber, d'autre part, de ne pas pouvoir transmettre leur statut à leurs enfants du fait de l'activation, l'intensification de la compétition scolaire. Traditionnellement, on répondait à cette insécurité sociale et aux turbulences qu'elle crée, turbulences qui peuvent prendre la forme de délinquance, qui peuvent prendre la forme d'abstention aux élections, qui peuvent prendre la forme de désordres familiaux, personnels, etc. Comment on répondait traditionnellement ? On répondait en élargissant le filet de protection sociale. Et de manière traditionnelle, il y a un très beau livre de Francis Fox Piven et Richard Clower, deux politologues américains, qui ont écrit un livre qui s'appelle « The Functions of Social Welfare », les fonctions de l'aide sociale. Et ils montrent qu'historiquement, l'aide sociale, les États avancés ont... L'aide sociale, elle évolue en accordéon. On l'élargit, on accroît l'aide sociale, on accroît la protection sociale dans les phases de récession de l'économie. Pourquoi ? Parce que ça fait monter le chômage, les désordres, les menaces à l'ordre social. S'il y a trop de chômeurs, ils peuvent se révolter. Donc, on accroît le filet de protection sociale. Et quand l'économie va mieux, le marché du travail se tend, ben, on replie le filet de protection sociale de sorte à repousser les gens vers le marché du travail et restaurer la discipline du travail. Et donc, et leur schéma marche, et mon argument, oui, leur schéma marche durant l'ère fordiste keynésienne, mais à partir du milieu des années 70 aux États-Unis, à partir de la fin des années 80 en France, on sort de ce schéma, et à l'ère du capital hypermobile et des inégalités ressurgissantes, et de la généralisation de la précarité salariale, on passe donc du welfare au workfare, donc aux politiques sociale restrictive, comportementale, visant à superviser et à pousser les gens sur les secteurs périphériques du marché du travail. Et donc ici, c'est le RSA. Hein. Mais ça fait quoi ? Ben, ça ne fait qu'intensifier. Intensification ne fait qu'intensifier la sécurité sociale et les turbulences et les désordres qui viennent avec. Et donc, et ça crée quoi, cette insécurité sociale ? Et ces turbulences, elles créent un déficit de légitimité des politiques qui ne protègent plus des risques de la vie, qui ne protègent plus du risque de perdre son emploi, qui ne protègent plus du risque de perdre son logement, qui ne protègent plus du risque de la chute sociale. Et donc, il y a d'une part des désordres qu'il faut bien contenir, et de l'autre côté, un déficit de légitimité. C'est là que... Alors donc, on voit que la politique de dérégulation économique, elle nécessite le passage du welfare au workfare, parce que sinon, ben, les gens vont se protéger de la dérégulation économique en trouvant refuge sous l'aile protectrice de l'État social. Donc cette aile, il faut qu'elle se transforme en trampoline. Trampoline, on dit ? Ça, oui. Des fois, les mots sont pareils en anglais et en français. Je crois que je me trompe et je ne me trompe pas. Donc il faut transformer le filet de protection sociale en trampoline vers les emplois précaires. Mais ça, ça ne fait que en fait redoubler l'insécurité et les turbulences et les désordres et aggraver le déficit de légitimité des politiques. Et on va faire quoi? C'est là qu'on a le troisième élément d'une politique néolibérale, l'activation de l'État pénal, du vecteur pénal de l'État, qui va faire quoi? Qui va à la fois servir à contenir les désordres générés dans les quartiers pauvres par la généralisation du chômage et de la précarité salariale, et l'instabilité de vie, l'instabilité familiale, les conflits de voisinage, et etc., que ça génère, et également réaffirmer la fortitude du Léviathan, réaffirmer la capacité d'action, pour tout dire, la virilité. Parce que cet état, donc la main gauche, qui est la main sociale, c'est la main féminine, et la main droite, qui est la main paternelle, c'est la main masculine. Et la fonction pénale et la fonction masculine, par exemple, dans l'état historique de la division des rapports entre les genres, évidemment pas fondée dans la nature. Mais donc, l'activation de l'état pénal, il va servir à la fois à juguler donc les désordres que l'État lui-même a créés en dérégulant l'économie et en retirant le filet de protection sociale, ou, dans le cas des banlieues populaires en France, en retirant les investissements dans les HLM et en laissant les bâtiments se dégrader, en laissant l'habitat aller à volo. Bon, après, on va faire un petit plan de politique de la ville comme ça pour repeindre un peu la façade et tout. Mais une fois qu'on a également changé la politique de la ville en passant de l'aide à la pierre à l'aide à la personne, qui a permis à toutes les familles de classe moyenne de partir des HLM populaires, laissant derrière uniquement les familles les plus vulnérables qui ne peuvent plus maintenir les bâtiments en l'état. Donc, le paradoxe, c'est l'État lui-même qui génère l'insécurité sociale, qu'il va redoubler en retirant les filets de protection sociale ou en passant des politiques de type RSA. Et donc, ensuite, il va déployer son appareil pénal pour, d'une part, trois fonctions de l'appareil pénal. Premièrement, neutraliser et entreposer les fractions surnuméraires du nouveau prolétariat industriel, c'est-à-dire les fractions de la population qui ne sont plus employables en l'état du marché du travail et de la division du travail. Bon, bah, il faut bien les mettre quelque part. Alors, en France, en Europe, pour des raisons historiques qui ont à l'enracinement de l'état social, il y a encore un état social fort. Alors, en Europe, aux États-Unis, ça prend la forme du basculement. Basculement de la gestion sociale vers la gestion pénale et l'hyper-incarcération. En Europe, ça prend la forme d'une double activation de la gestion sociale et de la gestion pénale. Et ça prend la force non pas du déploiement de l'appareil carcéral, mais de l'appareil policier. C'est pour ça qu'en France, il y a eu, maintenant on le sait, les statistiques dont le gouvernement ne se vantait pas. On sait que maintenant, en 8 ans, le nombre de gardes à vue a doublé en France. Or, le gouvernement nous dit que la criminalité a baissé. Donc pourquoi le nombre de gardes à vue aurait-il doublé si la criminalité a baissé? Et on voit quoi? Que c'est l'activation de l'appareil policier. Donc il y a une résistance ensuite de l'appareil judiciaire, il y a une forte résistance de l'appareil pénitentiaire aux politiques de carcéralisation de la misère. Donc ça, c'est la différence majeure. Mais donc, entreposer les fractions surnuméraires, ensuite discipliner les autres, c'est-à-dire augmenter le coût, par exemple, de fuite. Quelle est votre alternative si vous ne voulez pas accepter un petit boulot? C'est d'aller dans le business, de faire l'économie de la rue, essayer de gagner mieux et plus, c'est plus risqué, c'est moins. Mais si vous augmentez le coût de cette alternative en augmentant les rondes de police et en augmentant les peines de prison pour deal, etc., de fait, vous poussez les gens vers la voie alternative qui est quoi? Accepter les petits emplois. Donc, on va entreposer les fractions surnuméraires du nouveau prolétariat, sous-prolétariat urbain, discipliner les fractions rétives au salariat précaire, en augmentant le coût des stratégies de résistance par l'économie informelle de la rue, et, très important, c'est là qu'on retrouve l'analyse matérialiste et l'analyse symbolique, réaffirmer la fortitude virile des responsables politiques et l'autorité de l'État, au moment même où l'État organise son impuissance sur le front économique. C'est-à-dire les mêmes qui nous disent « l'État ne peut plus rien, on ne peut pas empêcher, c'est la mondialisation, il faut s'adapter. Les mêmes nous disent, mais non, l'État, quand il s'agit de l'insécurité, alors là on va agir, hein, et là, on vous garantit des résultats. Hein. C'est dommage que ce ne soit pas l'inverse, qu'on dise, ah, sur le front du chômage, alors là, on va agir, hein, et on va vous garantir moins 2% de chômeurs chaque année pendant 5 ans jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais, évidemment, on ne serait pas en train de construire un État néolibéral. Donc, conclusion, un État néolibéral, c'est quoi? Un État néolibéral, ce n'est pas un État qui promeut la logique du marché. Oui, il y a la logique du marché, mais en fait, c'est un État qui articule 4 éléments. Premièrement, oui, le règne du marché, c'est-à-dire le marché proposé comme dispositif pour non seulement organiser les échanges économiques, ça, à la limite, on veut bien l'admettre, mais pour organiser l'ensemble des échanges humains, ça, c'est autre chose, c'est-à-dire organiser l'éducation, organiser la santé, par exemple, organiser le logement sur le modèle du marché. Hein, c'est ce qu'on nous dit maintenant, il faut des palmarès des écoles, il faut que les gens choisissent. Vous êtes un consommateur d'une école, vous êtes un consommateur... La triste réforme de la santé, c'est bien qu'Obama ait passé sa réforme de la santé, mais alors, quelle... C'est pas une réforme du tout, parce que c'est l'extension du système existant. Système complètement ahurissant qui est la marchandisation à outrance. Donc là, la réforme, ça va être l'État va subventionner les Américains qui ne peuvent pas se payer la santé pour qu'ils continuent d'acheter la santé auprès des assurances privées, qui vont s'en mettre plein les poches. D'ailleurs, à l'annonce de la réforme, les actions des compagnies pharmaceutiques et des compagnies d'assurance médicale sont montées. Mais donc c'est ça, c'est le marché. Mais pour organiser le marché, il faut en fait articuler ça à 3 autres éléments. Deuxième élément, c'est le filet social, ou c'est les politiques sociales. Les politiques sociales de type qu'on dit active, hein, politique sociale, on va dire disciplinaire, qui vise à surveiller et à imposer un comportement aux récipiendaires d'aide pour les pousser sur le marché du travail déqualifié. C'est le troisième élément, un secteur pénal hypertrophique et hyperactif. Et voyez, donc la différence avec l'analyse de 99, c'est que en 99, je disais, la montée des prisons, c'est une conséquence du néolibéralisme. Là, je dis, non, je m'étais trompé, j'étais moi-même dans l'idéologie néolibérale, qui est que le néolibéralisme, c'est juste ça, c'est tout. Ça, c'est l'idéologie néolibérale qui vous dit, c'est le marché, c'est bien, c'est formidable, c'est l'efficacité. Tout le monde bénéficie, oui, il y a des coûts de transition, tout ça, mais au final, tout le monde bénéficiera. Pareto optimality. Et le reste, ben le reste, c'est pas important. Non, ben, en réalité, quand on regarde les pays soi-disant néolibéraux, qui sont les pays à la pointe? Les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Quels sont les pays qui ont eu les augmentations d'incarcération les plus fortes durant les 15 dernières années? Les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Quel est le pays qui est à la pointe de l'organisation de marché en Amérique latine? Le Chili, parce que le Chili était le premier pays qui était en fait le pays où ont été expérimentées les doctrines néolibérales dans les années 70 sous Pinochet. Quel est le pays qui mène, qui est leader de l'incarcération en Amérique latine? Donc un État pénal actif et hypertrophique, ça n'est pas un développement tératologique, ce n'est pas une aberration, ce n'est pas un élément provisoire, transitoire, une déviation du schéma néolibéral, c'est un élément à part entière de la construction de l'État néolibéral. Et quatrième élément important, et là je pense que vous allez reconnaître certaines des thématiques de la vie quotidienne ou du débat public en France, et peut-être que ça va être le sujet de discussion ce soir et demain et après-demain, c'est la trope, le discours, le thème de la responsabilité individuelle. Ça, c'est formidable, la responsabilité individuelle. La responsabilité individuelle qui envahit tous les domaines de la vie. Alors, le droit, alors évidemment, c'est intéressant, on voit le lien avec l'État pénal, puisque le code pénal est fondé sur la notion de responsabilité individuelle. Mais l'économie est fondée aussi sur, soi-disant, le raisonnement des acteurs rationnels, individuels, etc. Mais c'est une trope qui envahit tous les domaines. La santé, il faut que les malades soient responsables. Les écoliers, les enseignants, dans tous les domaines. Et cette trope de la responsabilité individuelle, dont le corrélat est évidemment l'irresponsabilité collective, ou le défaussement des responsabilités des entreprises en particulier, quand on passe... on pourrait discuter sur la taxe carbone pendant longtemps à partir de ce thème. Mais elle envahit l'ensemble de la vie et elle sert de, en quelque sorte de liant, elle sert de colle culturelle pour relier ces trois éléments. Donc on voit que le néolibéralisme, ce n'est pas exactement ce qu'on dit que l'on croit que c'est. Et c'est pour ça que je pense que, tristement, les prisons de la misère a eu le succès qu'il a eu. C'est-à-dire il a eu un succès, en quelque sorte, au prorata de la néolibéralisation des pays dans lesquels il a été traduit. C'est-à-dire dans les pays qui ont le plus... Alors, prenons l'exemple de l'Angleterre, qui a été la tête de pont de néolibéral en Europe. L'Angleterre, sous Thatcher, a dérégulé son marché du travail. Il faut savoir qu'en Angleterre, jusqu'à très récemment, il n'y avait même pas de salaire minimum, qui s'est traduit par la montée des inégalités, de la pauvreté. Le chômage a disparu, oui, mais la misère est toujours là, puisque maintenant, ce sont des pauvres qui travaillent. Et qui est venu après derrière? Mais après, il fallait bien activer et pousser les gens sur ces emplois. Blair est arrivé, c'est Blair qui a mis en place les politiques de workfare. Politiques de workfare, alors complètement importées des États-Unis, et même le chantre de ces politiques aux États-Unis, qui est un politologue de New York University, était régulièrement invité à Londres pour faire des conférences. Donc c'était pas du tout masqué. Je n'ai rien révélé dans mon livre. Tout le monde sait que cette politique de workfare a été importée, recopiée sur le modèle américain. Et quelques années plus tard, il y avait quoi? Il y avait la police de tolérance zéro et le slogan « Prison works », la prison, ça marche. Et l'Angleterre est devenue le premier pays incarcérateur en Europe. Et donc on voit la cohérence. Alors si on voit un schéma ici, on voit la cohérence. Parce que quand vous achetez, c'est en quelque sorte... Oui, on voit, enfin, tout est relatif, mais... oui, voilà, on imagine. On a les éléments pour travailler vers une vision. On voit la cohérence, c'est-à-dire quand vous achetez cette politique, c'est ce que j'appelle le problème de Polanyi. Alors, je suis très content parce que c'est un livre qui vient d'être traduit en français. Je l'ai vu hier dans une librairie. Je le recommande chaleureusement. Karl Polanyi, La grande transformation. Il existait depuis longtemps, mais maintenant il est en poche. C'est un sociologue, politologue qui, en 48, a écrit ce livre magnifique qui analyse l'émergence des sociétés modernes, et notamment l'émergence des sociétés mercantiles. Et il montre au 18e, 19e siècle pourquoi les sociétés ont inventé des politiques sociales, etc. Parce qu'en fait, quand on laisse le marché se développer, le marché détruit la société. Et la société va réagir. Il y a un mouvement de réaction contre le marché pour mettre des limites au marché. Et donc il montre que parallèlement, le marché, ce n'est pas un phénomène naturel. Ce n'est pas le marché, comme ça arrive, le marché rentre, il marche dans la salle. Non, le marché, c'est un ensemble de règles administratives, c'est un ensemble d'institutions, c'est un ensemble de règles politiques, juridiques, c'est un ensemble d'organisations qui tendent à imposer un certain comportement et un certain type d'échange. Et donc, il montre dans ce livre magnifique que pour arriver à faire du marché, il faut en fait une intervention de l'État. C'est l'État qui fabrique le marché en instaurant, par exemple, le droit de propriété, en le faisant respecter. Par exemple, la loi Hadopi. La loi Hadopi, c'est un bon exemple. La propriété intellectuelle n'existe. Il n'existe de marché des biens culturels que si l'État codifie et fait respecter un droit de propriété intellectuelle. Sinon, c'est l'anarchie, ce n'est pas un marché. Et donc, il montre très bien que pour créer un marché, il faut en fait un État, en quelque sorte, interventionniste. L'État n'intervient pas dans le marché. L'État intervient dans la société pour créer le marché. Et donc, on voit ici que le néolibéralisme, il rencontre ce que j'appelle le problème de Polanyi, c'est-à-dire que pour s'imposer, il faut qu'il crée un État qui a ses capacités, capacités d'intervention et de pénétration des couches défavorisées, des couches préparisées, par le biais de son bras social, par le biais de son bras pénal, qui deviennent liés l'un à l'autre, fonctionnent en tandem pour produire une double régulation de la misère, une double régulation de la précarité, une double régulation de la pauvreté et de l'inégalité dans les sociétés contemporaines. Merci.
Je propose qu'on mette un micro là-bas et que vous le fassiez passer, et un autre ici. Et un dans le planétarium.
Oh,
Bon. Vous avez la parole.
Vous êtes bouche bée ou bouche cousue ?
Très rapidement, deux petites questions. Je ne voudrais pas relancer le débat entre les héritiers de Marx et de Durkheim, mais où est-ce que vous situez, c'est une vraie question, où est-ce que vous situez la théorie de l'idéologie qui, me semble-t-il, peut quand même rendre compte de tous ces problèmes de communication, d'expression, de symbolisme, etc. La deuxième question, c'est juste une question de vocabulaire. Autant je suis complètement convaincue par l'image du néolibéralisme centaure, autant je préfère l'étiquette de libéralisme, de... Comment vous avez appelé ça ? Enfin, de ne pas utiliser paternalisme, libéralisme paternaliste, mais libéralisme autoritaire. Je repense aussi à toutes les analyses justement sur le thatchérisme, hein, sur, en particulier les analyses de Stuart Hall sur le populisme autoritaire. Il me semble que le paternalisme continue à garder une connotation relativement positive, surtout dans ce que l'on vit aujourd'hui. On en vient presque à regretter l'état paternaliste ou le patron paternaliste par rapport à toutes les formes de dérégulation que vous avez précisées. Et il me semble que... on a du mal à voir, on a parlé tout à l'heure des manifestations du 10 octobre, on a du mal à voir dans ce qui s'est passé le 10 octobre, quoi que ce soit de paternaliste. Par contre, on voit très très bien ce qu'il peut y avoir d'autoritaire. Donc, est-ce que vous pourriez justifier ce terme ? Merci beaucoup.
D'accord. Ah, ça commence bien. Ça commence bien avec des questions dures. Mais c'est bien. La théorie, je suis content que vous me posiez la question de la théorie de l'idéologie, parce que vous avez noté, j'ai pas utilisé le mot d'idéologie, c'est délibéré. Et je pense qu'un des gros obstacles en fait, à penser ces problèmes-là, c'est la théorie de l'idéologie, notamment sortie de l'école althusserienne, du marxisme structuraliste. Dans le papier sur lequel je devais m'appuyer, justement, je fais une critique des analyses de David Harvey, le géographe, qui a écrit un livre, je ne sais pas s'il est disponible en français, Une brève histoire du néolibéralisme. Il n'est pas disponible. Hein. C'est dommage, parce que c'est un très, 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 très bon livre qui propose une genèse et une caractérisation du néolibéralisme, dans lequel, dans ma critique, je pointe que bon, son modèle est totalement inscrit dans le schéma de l'économie politique marxiste, classique, ne fait aucune place aux éléments symboliques, et... Donc il est absolument là et il a une vision complètement répressive de... Alors quand l'État pénal est mentionné, les prisons sont mentionnées, etc., c'est une conception complètement répressive du pouvoir dont il dit qu'il est activé contre les groupes dissidents, contre par exemple les manifestants du G8 de Seattle, les altermondialistes, etc., alors qu'en réalité... Les cibles de la pénalisation, ce n'est pas du tout les mouvements dissidents politisés. Les cibles de la pénalisation, c'est le sous-prolétariat. Mes copains de Chicago, de la salle de boxe, qui ont tous fait de la prison, il n'y en a aucun qui est concerné par lutter contre le droit des exactions des entreprises et le pouvoir capitaliste. La pénalisation, elle a été ciblée sur les populations précarisées et marginalisées, pas du tout les populations politisées. Et je pointe que donc David Harvey, il reste prisonnier de cette vision althusserienne entre appareil idéologique d'État, d'un côté, appareil répressif d'État, hein, c'est le schéma issu d'Althusser, et je dis qu'il faut se débarrasser du fantôme d'Althusser une fois pour toutes, parce qu'on ne peut pas comprendre. La notion d'idéologie, je m'en sers pas, parce que la notion de violence symbolique est plus forte, et notamment en particulier parce qu'elle nous sort de cette vision répressive. Elle nous sort de cette vision répressive. Il s'agit, avec l'appareil pénal, littéralement, de alors, oui, et la différence avec Foucault, je vais attendre peut-être la question avec Foucault, parce que c'est d'une certaine manière, c'est une manière de répondre, c'est d'amener ça sur mes distinctions, mes différences avec Foucault. Mais donc, sur l'autre point, alors, c'est, j'aurais pu dire libéral autoritarisme, mais il y a une vraie vision paternaliste au cœur de ces... Ce n'est pas par hasard si M. Martin Hirsch, qui vient de quitter le gouvernement, ayant accompli sa mission. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand il est rentré au gouvernement, il devait faire baisser la pauvreté. Aux dernières statistiques, la pauvreté n'a pas beaucoup baissé. Mais le RSA va être la solution miracle. Mais c'est intéressant que Martin Hirsch vient du mouvement Emmaüs, qui a une vision moralisante de la pauvreté. Et donc, je préfère le terme de paternalisme parce que justement, il charrie avec lui cette idée que celui qui est en position d'autorité peut et doit dicter la morale de celui qui est le récipiendaire de cette autorité, qui n'est pas dans la notion d'autoritarisme. Et également, alors, je voudrais pas donner l'impression, parce que c'est l'impression que vous m'avez donnée dans votre question, qu'on doit choisir des mots qui ont une connotation positive et pas une connotation négative. J'essaie toujours de choisir des mots qui, pour moi, ont une connotation aussi neutre que possible. Les sociologues ne sont pas des moralistes. Et on ne doit pas choisir des termes parce qu'ils sonnent bons ou ils sonnent mauvais. On doit choisir des termes parce qu'ils nous aident à développer une analyse. Et si on voit que les uns ou les autres l'entendent avec des connotations morales ou positives ou négatives, etc., il faut immédiatement avertir que ce n'est pas dans cette optique-là qu'on les utilise. Donc, la critique que j'ai aussi parfois, c'est mais est-ce qu'on ne pourrait pas se débarrasser du terme de néolibéralisme ? Oui, bon, on peut se débarrasser de tous les termes, mais bon, il faut bien des termes pour parler des choses. Hein, et il me semble que, ou on pourrait dire, on pourrait même critiquer la notion de libéral, parce qu'en fait, il n'y a pas de véritable libéralisme. C'est-à-dire, on ne pratique jamais le laisser-faire et le laisser-passer. Les premiers à crier, à demander l'aide de l'État, quand ils en ont besoin, c'était les banques, qui ont mis leur laisser-faire et laisser-passer dans leur poche immédiatement, quand la crise est venue. Donc, on pourrait, pour chaque terme, dire « Ah, mais libéral, ça veut dire aussi, surtout aux États-Unis, libéral, il y a aussi la connotation progressiste. » Donc, c'est aussi un terme. Bon, mais, voilà, j'ai employé ce terme-là, mais pas le terme d'idéologie qui me semble renvoyer à une notion de base et superstructure. Alors que, dans mon analyse, et je pense que c'est la force du modèle bourdieusien, c'est qu'il vous force à faire une analyse qui est à la fois matérialiste et symbolique à chaque étape, à chaque niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un niveau matériel et après, il y a le symbolique qui se surajoute. Non, dans l'économie, il y a du symbolique. Dans le symbolique, il y a de la matérialité. Donc, il faut tenir ces deux moments. Ce sont plutôt deux moments de l'analyse que deux instances de la société. Et donc, c'est pour ça que je préfère pas utiliser le terme d'idéologie.
Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé. J'ai pas mal de questions. Je vais en poser deux, une un peu socio, une un peu plus journalistique, j'ai envie de dire. Une socio sur finalement, j'ai envie d'avoir plus de développement sur la conception de l'individu finalement qui sous-tend un peu ce déploiement de l'État néolibéral, pénal. La dernière catégorie, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, rupture, enfin, sur la survalorisation de la responsabilité individuelle, évidemment, charrie derrière une conception de l'individu particulière qui est peut-être pré-bourdieusienne, pré-freudienne, enfin pré-pas mal de choses, je pense, et aussi charrie la valorisation d'un individu qui doit prendre des risques, enfin je pense évidemment aux travaux de Castel sur les... Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu développer cet aspect-là ? Et puis, je pense aussi à vos remarques sur le behaviorisme. Finalement, quelle conception de l'individu aujourd'hui dominante ? Et éventuellement, un complément sur des différences entre, puisque vous êtes entre la France et les États-Unis, s'il vous semble y avoir des différences de conception autour du sujet. Et puis, une question plus secondaire, plus journalistique sur... journalistique sur le Obama aujourd'hui, vous avez parlé de Obama et la santé, sur les prisons avec ce record incroyable de 700 pour 100 000 incarcérés, c'est ça ? Est-ce qu'on a un discours politique, moi je n'en ai pas l'idée, mais sur Obama et l'évolution, enfin sur l'évolution des prisons et de ce taux d'incarcération et sur des projets de décrue.
Alors, la conception de l'individu, il y a deux questions dans votre question. Il y en a une qui est, quelle est la conception de l'individu que le projet néolibéral suppose et impose ? Et il y en a une autre, je crois, qui était un peu mêlée, c'était quelle est ma conception de l'individu dans ce modèle ? Bon, la seconde, je peux faire l'impasse, c'est-à-dire je peux être complètement agnostique sur quelle est ma conception de l'agent social, puisque là, je parle des structures au niveau des institutions, etc. On peut dire, ça peut être un agent rationnel, ça peut être un agent, un animal symbolicum à la... à la mode des interactionnistes symboliques. Bon, mais la question plus intéressante, c'est quelle est la conception de l'individu qui est charriée par l'articulation de ces quatre éléments? Où est-ce qu'ils sont? Les quatre éléments, ils sont là. Non, encore une page. Waouh! J'ai noirci, hein, là. Là, c'est clair, quand même. C'est l'individu pensé sur le modèle de l'entrepreneur. Donc, chaque personne est une monade qui a une obligation vis-à-vis d'elle-même de se réaliser. Et de se réaliser dans l'espace professionnel, notamment, qui est en quelque sorte le maître et possesseur de soi-même. C'est la conception hobbesienne. Alors, c'est intéressant parce que chez Hobbes, il y a cette idée qu'on est chacun, en fait, possesseur de son corps. Et qu'étant possédant de son corps, étant possesseur de son corps, on se doit de choisir sa vie. Et donc, c'est ce modèle-là qui est charrié. Alors, avec une variante aux États-Unis, qui est la grande différence entre les États-Unis et les pays européens en général, hein, continentaux en tout cas, c'est qu'aux États-Unis, il y a une vision très, très religieuse, moins influencée par le protestantisme, très religieuse, qui est que il y a un moralisme ordinaire dans la vie quotidienne qui envahit tout, qui est en quelque sorte la base sur laquelle tout ce raisonnement opère. Alors qu'en France, merci à la Révolution française, enfin, y a une tradition laïque, séculière, qui a fait qu'on arrive à penser l'individu, les obligations de l'individu, etc., en dehors de la vision religieuse et la vision moralisatrice. D'ailleurs, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles il y a une résistance plus grande à toutes ces politiques d'activation. Il y a une raison pour lesquelles, par exemple, bien que c'était la tentative, Sarkozy avait bien fait ça pendant la campagne de 2007, les gens qui se lèvent tôt le matin, etc. C'était un début de... Il y a des pauvres déméritants, il y a la Sistana, etc. Donc c'était un début d'introduire, mais il ne peut pas dire ouvertement les pauvres déméritants contre les pauvres méritants. Alors qu'aux États-Unis, on dit ouvertement les pauvres déméritants et les pauvres méritants. Je veux dire, c'est une catégorie d'ailleurs tellement prégnante qu'elle imprègne les sciences sociales, enfin non seulement la vie quotidienne, les institutions, mais même les sciences sociales sont pleines de cette distinction. Donc c'est la religion qui est le grand vecteur d'un moralisme très prégnant qui, par exemple, rend très difficile pour la compréhension de la politique américaine, souvent, de ce point de vue-là. Il faudra arriver à la regarder de ce côté de l'Atlantique avec des lunettes religieuses. Voyez, par exemple, pour un Européen, c'est incompréhensible. Comment les députés démocrates qui viennent de voter une loi élargissant le système de santé existant à... sur 5 ans, si on ne modifie pas la loi d'ici là, parce que alors là, c'est pas fait, hein. Mais dans 5 ans, peut-être que 30 millions d'Américains de plus auront une couverture médicale, ce qui en laissera quand même 15 à 20 autres millions toujours pas couverts. Ça, mais donc, les députés qui ont voté cette loi sont aujourd'hui sujets à des menaces de mort et à des attaques contre leurs officines, etc. etc. Donc, comment est-il compréhensible qu'on fasse preuve de tant de violence et d'intolérance pour quelqu'un qui vient de voter une loi qui simplement donne l'accès au système de santé? Parce qu'il y a une vision morale, quasiment religieuse, derrière ça, qui est que l'État qui est perçu dans l'imaginaire collectif américain comme cet intrus, comme cette entité extérieure à la société, est venu s'imposer, rentrer, pénétrer dans le corps social de manière... C'est un viol, en quelque sorte. C'est un viol du corps social par l'État qui va imposer notamment un partage des ressources entre ceux qui ont mérité, ceux qui ont travaillé, qui ont mérité leur couverture médicale, sauf que beaucoup travaillent et n'ont pas de couverture médicale, et que beaucoup ne trouvent pas de travail. Et donc, il y a une espèce de ce qui explique la violence des sentiments autour de ça, c'est cette idée qu'un code moral est violé par cette législation d'une banalité, finalement, absolument... En fait, c'est affligeant qu'un pays avancé en soit aujourd'hui à passer une loi qui simplement va peut-être autoriser encore 40 millions, 45 millions de ses citoyens de ne pas avoir accès aux soins de base. C'est, c'est,
C'est assez sublime. Donc c'est ce côté, c'est ce moralisme très fort. Alors, rapidement sur la question sur Obama et l'emprisonnement aux États-Unis, on peut. Alors, ce qui va changer, ce qui est en train de changer, en fait, la trajectoire pénale des États-Unis aujourd'hui, c'est la crise budgétaire. Crise budgétaire qui est sans précédent. Pour vous donner un exemple, la Californie a un budget de 120 milliards de dollars, qui est tout petit. La Californie, 36 millions d'habitants. Un budget, le budget de l'État de Californie, c'est 120 milliards. 120 milliards avec un déficit structurel de 30 milliards. Mais c'est un État qui ne peut pas, qui est tenu par sa constitution d'avoir son budget en équilibre. Donc ça veut dire qu'il faut couper. Alors on licencie les enseignants, on licencie les travailleurs sociaux, on licencie les employés publics, on ferme les parcs publics, on vient de couper le budget de mon université de 30%, j'ai une baisse de salaire de 10%, on vient d'annoncer que les diplômes qui se faisaient en 4 ans se feront peut-être maintenant en 3 ans, et on va doubler le nombre d'étudiants qu'on prend qui viennent de l'étranger parce qu'eux, ils payent plein pot, et tant pis si les étudiants de l'État n'ont pas accès à l'éducation, etc. Mais aussi, c'est un État qui dépense 10 milliards pour ses prisons, 8 milliards pour les universités, 10 milliards pour les prisons. Et donc, l'État donc se trouve forcé, contraint et forcé, pour deux raisons. Il faut trouver de l'argent, il n'y a pas d'argent. Donc on est obligé de libérer les détenus. Et il y a depuis maintenant 15 ans des séries de poursuites judiciaires contre l'État de Californie pour violation de la Constitution, parce qu'aux États-Unis, le seul moyen d'effectuer un changement social, c'est les tribunaux. Et il y a des poursuites judiciaires contre l'État de Californie pour violation de l'article de la Constitution protégeant contre les châtiments inhabituels et extrêmes, c'est-à-dire la torture, contre le système de santé de l'administration pénitentiaire. Les seuls Américains aujourd'hui qui ont un droit constitutionnel à la santé sont les détenus, parce qu'ils sont sous la main de l'État et donc l'État doit leur apporter des soins médicaux. L'État de Californie dépense 1,5 milliard de dollars pour la santé de ses détenus. Et il devrait en dépenser 3 fois plus. Et donc, il a été mis sous ordre d'une cour de libérer l'État de Californie à 170 000 prisonniers. La France a 63 000 détenus. L'État de Californie a 170 000 condamnés et 40 000 personnes dans les maisons d'arrêt. Donc, 210 000 pour la moitié de la population française. 210 000 détenus. Et donc, l'État a été condamné par la cour. Et après une série de poursuites, ça fait 15 ans que ça dure, finalement les juges ont ordonné à l'État de libérer 40 000 personnes dans l'année qui vient, parce que c'est le seul moyen d'arriver à faire que les soins médicaux soient à un niveau minimum, pour vous dire à quel point la situation est grave. Un détenu meurt tous les jours par manque de soins médicaux. Tout le monde le sait, c'est dans les journaux, et ça continue. Donc c'est ça qui va changer plus qu'Obama. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Obama... Ce qu'il va faire, qui est important, c'est qu'il ne va rien faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas aggraver, il ne va pas encourager l'escalade pénale comme l'ont fait tous les présidents, depuis Nixon jusqu'à Bush. Et il n'a pas besoin, et là on revient au schéma d'une limpidité, absolue. C'est pour ça, vous voyez, c'est très très utile d'avoir... Est-ce que c'est celui-là ? J'arrive plus moi-même à distinguer... Oui, c'est celui-là. C'est ici. Plus l'État affirme son autorité au plan économique... moins il a besoin du guignol sécuritaire pour réaffirmer sa fortitude. Donc, depuis l'automne 2008, c'est-à-dire depuis le crash financier, bien, d'ailleurs, j'avais écrit un papier, fait une prévision, j'ai dit, dans les 5 ans à venir, le Congrès américain ne passera pas une loi majeure de lutte contre le crime. Pourquoi ? Parce que la priorité numéro un, c'est sauver la classe moyenne, non pas des délinquants de rue, mais sauver la classe moyenne qui va perdre sa maison, enfin, qui vont perdre leur maison, qui perdent leurs emplois, qui perdent leur... parce qu'ils ont des prêts qu'ils ne peuvent pas payer, ils vont être mis à la porte, etc. Et donc, l'État a réaffirmé sa capacité d'action sur le plan financier, sur le plan économique, etc. Et donc, il n'y a nul besoin d'aller combler ce déficit de légitimité qui est causé par le retrait des rôles protecteurs de l'État, puisque là, l'État réaffirme son rôle protecteur. Alors, je pense qu'en France, à cause de la claque de dimanche dernier et du dilemme structurel dans lequel Sarkozy se trouve aujourd'hui, on va être le seul pays au monde à faire du sécuritaire en même temps que de la politique de réaffirmation économique pour essayer de stabiliser les effets du choc financier. C'est-à-dire aux États-Unis, en Angleterre, partout, Brown, il ne fait pas des grandes annonces sur la lutte contre le crime. C'est secondaire. C'est, l'urgence, c'est de stabiliser l'économie, de renflouer l'emploi, de sauver le marché du logement, etc. Mais en France, parce que Sarkozy doit récupérer l'électorat Le Pen et qu'il n'y a que deux manières de le récupérer. Créer des emplois ouvriers, bah, ça ne va pas se passer. On le sait. Ou expulser des immigrés et foutre les gens en prison. Donc voilà, on connaît le programme pour les deux ans qui viennent. Donc on va. Donc, mais Obama, dans la situation où il est, il n'a aucune raison de faire, d'utiliser l'autorité fédérale pour élargir, intensifier les politiques pénales. Et il a aussi très peu de chances d'avoir une politique progressiste. Pourquoi ? Parce que la majorité des détenus aux États-Unis sont noirs. La vision collective du prisonnier, c'est du criminel, c'est un noir. Et en proposant des mesures progressistes, alors les délinquants, les criminels, les détenus sont honnis. Il y a une culture de honnissement public ouvert, de dénigrement très virulente des détenus, des criminels qui sont moins que rien, pas des citoyens, qui ont toutes les propriétés négatives du monde. Donc, il peut pas les toucher, comme on dit en anglais, il ne peut pas les toucher avec un bâton de 15 pieds. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il va faire ressortir sa propre noirceur, c'est-à-dire il va faire qu'il n'est pas simplement président, il est président noir, qui s'occupe des noirs, et qui va devenir clément, qui va montrer de la clémence contre ces criminels noirs. Et donc, il se desservirait lui-même, en réactivant ce côté de sa personnalité, et il risquerait de créer un retour de bâton. Malheureusement, alors aux États-Unis, donc on va voir, on l'observe déjà, il y a une politique où, en fait, contraint et forcé, les États libèrent des détenus. Donc, c'est les libérations conditionnelles, où on libère plus tôt, plus précoce, etc., où on emprisonne moins, etc. Mais comme parallèlement, on coupe tous les autres programmes. Alors déjà, il existait très, très peu de programmes de réinsertion, pratiquement pas de programme d'emploi, pratiquement pas de couverture médicale, etc., dans les quartiers défavorisés. Donc, ces quartiers complètement dévastés, ils sont encore plus abandonnés, puisque les services publics se rétractent, et particulièrement se rétractent dans les quartiers pauvres. Et on va libérer des masses de détenus qui vont arriver dans ces quartiers pauvres et qui vont retomber non seulement dans le chômage, mais dans le chômage, la misère, l'absence de services publics, et qui vont subsister comment ? En se relançant évidemment dans l'économie informelle. Et donc ça risque de se traduire effectivement par une bouffée de criminalité et de désordres urbains qui va redonner force à un revirement. Donc c'est pas impossible du tout qu'on voit une première décroissance et après un retour de bâton. Déjà en Californie, les groupes, les associations de défense de droits des victimes, qui sont toutes extrêmement punitives, hein, parce qu'en France, il y a des associations qui ont un peu pointé, etc. Mais aux États-Unis, les associations de droits des victimes ne visent qu'ils voient les rapports entre victimes et criminels comme un jeu à somme nulle. Tout ce qu'on leur donne, c'est quelque chose qu'on nous prend. Donc si on veut nous reconnaître, nous, il faut qu'on les brime, il faut qu'on les... Et donc, ces associations déjà mènent campagne dans l'État de Californie pour lutter contre la politique qui vise à relâcher des détenus. Mais en réalité, pour les États-Unis, ils se trouvent aujourd'hui dans l'alternative suivante. C'est ce que je dis à mes collègues qui luttent pour préserver les budgets de l'université, etc. Je dis, il y a un argument très simple, c'est que la classe moyenne californienne, aujourd'hui, elle doit choisir. Soit elle veut envoyer ses enfants à l'université, soit elle veut continuer d'envoyer des petits délinquants et des pauvres en prison par dizaines de milliers. Voilà, le choix, il est là. Donc, en cas, on ne peut pas avoir un État pénal surdimensionné et un État et des services publics décents, surtout quand on ne veut pas payer d'impôts. Mais parce que donc tout ça, ce qui est important, c'est dans le contexte américain, personne ne dit qu'il faut augmenter les impôts. La Californie est un des pays, si c'était un pays par son économie, ce serait la septième puissance économique du monde. Et il y a plus de millionnaires et de milliardaires en Californie que n'importe où ailleurs, sauf au Moyen-Orient, dans les Émirats arabes. Et pourtant, absolument personne en Californie ne dit levons un impôt sur les millionnaires et les milliardaires qui paient pratiquement rien. Mais non, non, c'est à impôt égal, donc à fiscalité égale, il ne reste plus qu'à comprimer tous les services publics pour arriver à. Et donc, on voit en fait que pousser dans cette logique-là, ça coûte infiniment plus cher de garder les pauvres en prison que de leur donner un revenu universel du citoyen, par exemple. En Californie, ça coûte 35 000 dollars par an de garder un détenu derrière les barreaux. Et il y a 20 000 détenus de plus de 50 ans qui coûtent le double, parce que quand on est en prison, on vieillit très vite, on a beaucoup d'afflictions physiques, de maladies, etc. Donc il y a des soins de santé qu'il faut donner. Un détenu de plus de 55 ans revient à 250 000 dollars par an à l'État de Californie. Certains ont commis des délits il y a 30 ans, 40 ans, mais il n'est pas question de les libérer parce que sinon on est soft on crime, on est mou avec les criminels. Donc c'est là qu'on voit le côté de la religion. Il y a une espèce d'inflexibilité morale qui fait que beaucoup de ces problèmes sont en quelque sorte insolubles ou ne peuvent pas avoir de solution rationnelle parce que l'intervention de la religion et de la vision moralisante intervient.
Oui, bonjour. Donc un petit détail sur Obama et sur le passage de la réforme de la santé. Bon, hormis que ce n'est pas un système public qu'il a mis qui passe finalement au Congrès, alors que c'était le projet original, hormis qu'il y a 15 à 20 millions d'Américains qui ne seront pas couverts alors que c'est le projet original, il a dû lâcher également aux membres les plus conservateurs, intégristes, réactionnaires, le fait que les États fédéraux américains ne pourront pas financer les centres IVG. Voilà. Donc ça, c'est quand même très grave.
Et pire que ça même, il a, dans une cérémonie publique, signé un ordre exécutif, c'est-à-dire un ordre présidentiel, rappelant à l'ensemble des administrations qu'aucun des fonds publics venant de l'État fédéral ne doit être utilisé, alors que c'est déjà le cas. C'est-à-dire donc il s'est prêté à une cérémonie de réaffirmation de l'excommunication, en quelque sorte, de l'IVG, qui est absolument abominable. Bon, mais c'est ça la politique.
Et alors, donc ma demande, c'était sur est-ce que vous pouvez nous parler, si vous trouvez ça pertinent, sur la privatisation de la sécurité, en fait. Parce que, notamment depuis 2001, le 11 septembre, il y a eu une explosion du marché de la sécurité, donc de grandes multinationales, grands groupes privés. Et notamment dans le film de Naomi Klein, La stratégie du choc, quand il parle de l'Irak, on a vu, du moins, il montre que depuis plusieurs années, il y a une explosion des sociétés privées qui gèrent la sécurité là-bas, et que maintenant il y a plus de membres de sociétés privées que de soldats américains. Voilà. Alors je ne sais plus si c'est Bagdad ou si c'est tout l'Irak, mais et comment ça s'articule dans votre schéma, en fait, parce que vous dites il y a hypertrophie du secteur pénal, mais est-ce que du coup c'est un secteur pénal qui peut aussi être privé, et du coup ça renvoie à le numéro 1 de votre schéma, c'est-à-dire en gros on favorise aussi le marché à travers cet intermédiaire-là. Voilà, merci.
Oui, c'était pour revenir sur la quatrième rupture qu'il faudrait qu'on fasse pour combattre, et selon laquelle il faudrait sortir des catégorisations produites par la logorée sécuritaire, donc à savoir là, ce que vous disiez à propos de Foucault là, et la sexualité, le discours qui crée l'objet, en fait. Et donc c'était pour revenir particulièrement sur la notion de ghetto qui est produite dans le champ journalistique, ou voire de la logorée insécuritaire. Et donc si vous pouviez préciser par rapport à ce concept de ghetto entre USA et France, et puis le passé et aujourd'hui, voilà, pour savoir qu'est-ce qui est derrière ce discours-là et qu'est-ce qui est de la réalité, en fait, du vrai ghetto, ou des zones, en fait, où il y a des problèmes.
Vous avez mentionné dans un moment la forte résistance de l'appareil pénitentiaire français à la carcéralisation de la misère. Est-ce que vous pourriez juste développer un tout petit peu et dire en quoi et...
Je vais commencer par la dernière question. Mais pour vous donner un exemple, c'est que quand les prisons de la misère est sorti en 99, je l'ai présenté à la prison de la santé, à la maison d'arrêt de la santé, sur le canal web et sur Télé La Santé, une télé tenue par les détenus, à l'invitation de la direction de l'administration pénitentiaire. Et le soir, c'était l'après-midi, et le soir, j'ai eu un débat avec les personnels réunis de l'école d'application pénitentiaire, qui à l'époque était à Paris, maintenant elle a été transférée près d'Agen. Et donc, il y a ce qui témoignait qu'il y avait dans l'administration pénitentiaire des hauts fonctionnaires et des dirigeants qui souhaitaient avoir des outils de réflexion pour résister à ce qu'ils, eux, ressentent comme une pression politique pour, en quelque sorte, ouvrir grandes les portes des prisons, plutôt fermer, close les grandes prisons, mais ouvrir grand les murs des prisons, enfin élargir les murs de la prison, pour, en quelque sorte, avoir la place pour tenir le contingent de gens qui seront envoyés dans le cadre de politiques de frénésie, de spectacularisme, de pornographie sécuritaire. Et donc, ils étaient très, très, très demandeurs d'outils d'analyse pour résister à leur niveau contre les pressions qui leur étaient faites d'une part par la justice. C'est toute la chaîne pénale, en fait. Hein. La justice est traditionnellement, bon, en France, c'est pour ça que le concept là, encore, de champ bureaucratique est très utile. C'est que le champ bureaucratique, c'est un concept que Bourdieu a produit pour essayer de repenser l'État. Et de repenser l'État comme en quelque sorte une espèce d'espace, qui est lui-même un espace de lutte, qui est un espace qui n'est pas forcément unifié et qui peut être très différencié ou pas très différencié, dans lequel il y a des sous-secteurs et dans lequel bon, il y a cette main gauche, cette main droite. Et notamment, il y a, suivant qu'ils s'autonomisent et qu'ils arrivent à obtenir dans l'appareil d'État une autorité, une autonomie de décision, des critères de décision propres, ce qui est le cas en France, par exemple, la police, la justice et l'administration pénitentiaire sont très autonomes les unes des autres. Elles ont leurs critères, elles ont leurs filières de recrutement, etc. Et elles acquièrent de ce fait, à l'intérieur de l'appareil d'État, la capacité de résister aux demandes de l'autre. C'est-à-dire l'administration pénitentiaire, elle fait pression de l'intérieur pour que bah, les juges ne fassent pas n'envoient pas une quantité de corps qui ne sont pas capables d'absorber. C'est pour ça que, par exemple, en France, c'est remarquable, c'est une étude interne qui n'a pas été révélée par l'administration du ministère de la Justice, il y a 63 000 personnes en prison, mais il y a en réalité 87 000 personnes qui ont été condamnées à la prison et qui ne sont pas en prison. Où sont-elles? Alors on nous dit, elles sont en attente. Mais elles sont en attente d'aller en prison, mais si elles rentrent toutes en prison, tout d'un coup, il y aurait 150 000 personnes. Mais certaines vont recevoir le droit de ne pas faire leur peine, d'autres vont être... Et en réalité, il y a tout un ensemble de stratagèmes et de subterfuges administratifs utilisés pour que le flux créé par les tribunaux, en fait, ne heurte pas la porte des prisons telle qu'elle. Sinon, les prisons crouleraient. De même qu'il y a un autre butoir qui est que on sait que la France doit avoir le record du monde d'augmentation des gardes à vue sur les cinq dernières années, puisqu'il y a eu un doublement du nombre de gardes à vue dans les 8 dernières années. Et il n'y a pas eu un doublement des entrées en prison, pas plus qu'il y a eu un doublement des charges suivies par les tribunaux. Pourquoi ? Ben parce que les juges ajustent leurs pratiques de manière à limiter le nombre de gens qui rentrent dans le système et à créer un goulot. Et donc, on voit que la justice fait goulot et limite les pressions de la police. L'administration pénitentiaire fait pareil à la justice et fait pareil également par l'intérieur de l'appareil d'État pour résister aux demandes politiques, à l'instrumentalisation politique. Et c'est là qu'on voit que donc, l'enracinement de ces sous-secteurs du champ bureaucratique joue un rôle important, joue en quelque sorte un rôle de taquet. C'est-à-dire alors on ne peut pas limiter le président de la République de faire des grands discours. Mais est-ce que derrière les grands discours, bon, on va annoncer qu'on va faire des donc on a passé une loi sur les peines planchées, peines planchées incompressibles automatiques. En réalité, il y a la loi et il y a un nombre tellement minime de cas qui est produit par cette loi qu'en fait, ça ne change absolument rien. Mais on a fait une esbrouffe politique, médiatique, absolument faramineuse autour de ça. Mais derrière, l'appareil juridique, lui, il met des bâtons, en quelque sorte, dans ses roues, de telle sorte que ben, l'inflation de discours sécuritaires ne se traduit pas par une inflation des entrées en prison. C'est pour ça que je dis, dans le cas français, on pénalise par le biais de l'appareil policier principal, et notamment par les contrôles d'identité, les gardes à vue, etc. Alors là, oui, là, ça y va. Mais, en quelque sorte, on peut dire que ça ne porte pas à conséquences judiciaires, et encore moins, ça ne porte pas à conséquences pénitentiaires. Parce que chacune de ces administrations a déployé des moyens de résister aux pressions et de limiter le flux rentrant dans le système. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, privatisation, excellente question. Ça me permet de préciser un point qui est très bien développé dans Punishing the Poor. Et d'ailleurs, c'est là aussi un changement dans mon analyse. Ouais, j'ai appris. Quand j'ai écrit le livre Les prisons de la misère en 99, j'ai écrit dedans, si je me souviens bien, que en fait, la privatisation des prisons était un élément important. Et effectivement, quand je l'ai écrit en 99, c'était empiriquement vrai. C'est-à-dire, en 99, je sortais d'avoir fait une série d'enquêtes, notamment j'étais allé faire des interviews avec les dirigeants des 5 premières firmes privées d'emprisonnement aux États-Unis, au grand salon, c'est un salon carcéral, il y a le salon de l'auto, le salon de l'agriculture, aux États-Unis, il y a le salon de la pénitentiaire. Et au salon de la pénitentiaire, ça dure 4 jours, c'est 2 fois par an, parce qu'une fois par an, ça ne suffirait pas. Ça dure 4 jours et c'est dans un c'est là, c'était à Orlando, là où il y a Disneyland, mais ce n'était pas aussi drôle que Disneyland. Et donc j'ai passé 4 jours à visiter les stands et à interviewer les représentants de firmes qui vendaient absolument de tout, depuis par exemple des téléphones qui enregistrent votre haleine, qui font une analyse de votre haleine, de telle sorte que votre agent de probation à qui vous téléphonez ait instantanément une analyse pour savoir si vous avez bu de l'alcool ou non, jusqu'aux bonbons qui étaient donnés jusqu'à des maisons d'arrêt montables. Les maisons d'arrêt démontables et montables. Si vous avez une petite maison d'arrêt, vous êtes une petite bourgade rurale, vous avez normalement 50 détenus, mais tout d'un coup, vous avez un afflux, vous avez besoin de 20, eh bien, on vous amène 20 cellules montables dans votre parking. Et jusque le clou, c'était quand même, c'était le bloc opératoire sur camion, donc un bloc chirurgical pour faire toutes les opérations les plus avancées, opérations à cœur ouvert même, et qui vient, là c'était un opérateur de santé privé, et qui vendait ses services chirurgicaux aux administrations pénitentiaires. Et donc j'étais sorti de ça, bon, horrifié et fasciné quand même, parce que ça a un côté, enfin, c'est on est sur une autre planète là, hein. Et lors de ces entretiens, les deux directeurs de Wackenhut et Corrections Corporation of America m'avaient dit... le marché double tous les 3 ans. Dans 5 ans, on est à 25% du... Alors, on compte en lits, ça se compte en lits, le nombre de lits. On sera à 25% des lits de l'administration pénitentiaire aux États-Unis. À l'époque, ils étaient à 7%. Ils sont toujours à 7%. En réalité, et donc dans les prisons de la misère, j'avais dit, oui, il y a ce développement, on va vers plus de... Donc, moi-même, j'ai induit les gens en erreur. Pourquoi ? Maintenant, avec une décennie de recul, on voit mieux le phénomène. Qui est qu'en fait, deux choses. Premièrement, ils ont eu le crash boursier. En fait, c'était une bulle spéculative. L'idée que les prisons privées allaient se développer, etc. Ils étaient dans les mêmes catégories qu'Internet, tout ça. Les opérateurs boursiers disaient investissez dans les biotechnologies, l'Internet et les prisons privées. Et donc, il y avait une bulle spéculative fabuleuse autour de ça. Avec l'idée que les États-Unis ayant connu une croissance carcérale phénoménale, ça allait continuer éternellement. Mais en fait, on pouvait déjà voir que la courbe était en train de se ralentir. Et depuis 2003, en fait, la population carcérale est stagnante. Donc il n'y a plus besoin de capacités supplémentaires. On n'est pas dans... Il faut savoir que les États-Unis rajoutaient, chaque année dans les années 90, ils ont rajouté pratiquement 100 000 détenus. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté une fois et demie la France tous les ans. En plus, des détenus déjà... Donc 100 000, 1 million, ils sont passés d'un million à 2 millions entre 90 et 2000. Donc, quand vous avez besoin de 100 000 lits de plus tous les ans, mais aucune administration publique n'est capable de produire 100 000 lits de prison. Parce que pour construire dans le secteur public, il faut des autorisations, décider ça, etc. Donc, ils passaient par des opérateurs privés. Mais alors, deux choses, donc. D'une part, la croissance s'est plafonnée. Et tout d'un coup, il n'y a plus besoin, donc quand il n'y a plus ce rythme frénétique d'afflux des corps, il n'y a pas besoin d'avoir recours à un opérateur privé. Il y a eu un crash, donc là, il y a eu une bulle spéculative, ils sont tombés, l'action Corrections Corporation of America, qui valait $55 à un moment donné, elle est tombée à 30 cents, donc elle ne valait plus rien. En fait, ils faisaient faillite. S'ils n'étaient pas sauvés par l'État qui les a sauvés en leur donnant le marché de l'emprisonnement des immigrés illégaux détenus. Et donc l'État fédéral a sauvé cet opérateur, sinon la firme disparaissait. Donc en fait, ces firmes n'existent en fait que par décret politique, en quelque sorte. Elles existent artificiellement. Elles ont un marché complètement artificiel qui n'existe que sur décision politique. Et qu'en fait, quand on compare, et c'est là qu'en fait l'analyse plus élargie que je propose dans Punishing the Poor, beaucoup plus utile, qui est que quand on compare les autres services publics, on opère que quoi ? Aux États-Unis, la distribution de l'aide sociale, l'aide aux pauvres, elle est opérée par des opérateurs privés ou par le tiers secteur. Plus de 70% de l'aide sociale aux États-Unis est distribuée non pas par des administrations publiques, mais par des opérateurs privés ou du tiers secteur. Quand on regarde la santé, plus de 70% du marché de la santé aux États-Unis est tenu par des opérateurs privés. Quand on regarde l'éducation, près de la moitié des services éducatifs aux États-Unis sont donnés par des opérateurs privés. Le seul service public qui reste vraiment public, c'est le châtiment, c'est la punition, c'est le secteur pénal. Et en fait, ça renvoie à cette fonction symbolique qui est absolument essentielle. Et dans le livre, j'argue quand même, non seulement bon, il faut analyser, il faut relier ça, mais il faut même rapatrier le pénal au sein des théories de l'État, parce qu'en fait, le secteur pénal de l'État est le cœur de l'expression de la souveraineté de l'État en tant que tel. Et on ne le réalise en quelque sorte que dans les périodes de crise. Par exemple, prenons l'exemple de l'invasion des États-Unis en Irak. On élimine l'armée, on désarme l'armée, on élimine la police. Quoi ? C'est le désordre. Et l'État perd toute légitimité. La première chose que vous devez reconstruire, c'est quoi ? C'est une police et une justice. On l'a vu également lors de la catastrophe de Katrina. C'est intéressant, le seul service public qui a fonctionné, tristement, c'était l'administration pénitentiaire de l'État de Louisiane. Et il faut savoir que la Louisiane, alors les États-Unis sont le pays au monde qui incarcère le plus, mais dans les États-Unis, il y a beaucoup de variances entre les différents États. En fait, ça va de 1 à 5 chez les États. Vous avez des États comme le Vermont et le Maine, qui sont en fait à la moyenne européenne. Ils ont 200-250, enfin un peu plus. Ils ont 200-250 détenus pour 100 000 habitants. Et vous avez des États comme la Louisiane, leader des États-Unis, donc leader du monde. La Louisiane, leader mondial de l'emprisonnement, avec 1600 détenus pour 100 000 habitants, c'est-à-dire 2,5 fois le taux national des États-Unis, qui est déjà le plus élevé. Pendant Katrina, le seul service public qui a fonctionné, c'est l'administration pénitentiaire. Aucun détenu n'est mort, noyé, bien que les prisons étaient envahies par les eaux. Et ils ont été évacués. Aucun détenu ne s'est échappé. Et la première institution qui a été recréée après l'inondation, c'est immédiatement, on a recréé une maison d'arrêt en mettant des grillages et des fils de fer barbelés autour de la station de bus Greyhound, qui est downtown. On a donc évacué les détenus de la maison d'arrêt et on a créé une maison d'arrêt de fortune tout de suite qui a été immédiatement opérationnelle. Et ce qui était triste, c'est si vous étiez dans un service de santé à New Orleans, vous aviez de bonnes chances de mourir. Si vous étiez dans un service de l'administration pénitentiaire, vous étiez évacué, vous étiez en sécurité. Et donc là, on voit donc dans un État misérable, où les aides sociales sont quasiment inexistantes, où il y a une misère noire, c'est le cas de le dire, et on l'a bien vu, avec Katrina l'a bien révélé, eh bien, il y a une administration pénitentiaire pléthorique. Et alors, dans les États où il y a la privatisation, en fait, c'est que c'est commode pour des raisons politiques. L'État choisit d'augmenter sa capacité. Alors, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est toujours 6%. Donc, c'est resté à 6%. Et ça restera toujours là. Pareil pour les opérateurs en Irak. Il y a des opérateurs privés. Il y a des soldats privés qui opèrent, etc. Oui, parce qu'ils sied à l'armée américaine de déléguer certaines fonctions, etc. Mais en quelque sorte, ils sont à un festin dont on leur donne les miettes. Et ce n'est pas la recherche du profit, ce n'est pas le rôle de ces firmes qui mènent la manière dont on fait la guerre, etc. De même que ce n'est pas le déploiement du secteur privé dans les prisons aux États-Unis qui explique l'extraordinaire expansion du système carcéral. Alors en France, on a le mythe du programme sécuritaire contre lequel il faut lutter, etc. Il n'existe pas. Donc ne luttez pas contre une chimère. Luttez sur les trois fronts, c'est-à-dire sur le front économique, sur le front de l'aide sociale et sur le front de la justice criminelle, pour lutter pour ou contre la redéfinition du périmètre des missions et des priorités de l'État. Oui, c'est une vraie lutte. Le programme sécuritaire, ça n'existe pas. Aux États-Unis, le mythe correspondant, c'est le mythe de ce qu'on appelle le prison industrial complex, le complexe carcéro-industriel, dont la grande théoricienne est Angela Davis, et dont les travaux, malheureusement, enfin, c'est pas à moi de dire malheureusement, mais sont traduits en France. Donc on peut lire sur le prison industrial complex. Alors, prison industrial complex, c'est une notion qui est dérivée du military industrial complex, le complexe militaro-industriel, qui n'est pas du tout un concept sociologique ou économique, qui est en fait une notion que le président Eisenhower avait inventée. Quand le président Eisenhower n'a pas été réélu, il était très dépité et il a dit bah, il y a un military industrial complex qui ne voulait pas de mon élection parce que moi je voulais limiter les dépenses de militaires. Donc l'idée du military industrial complex, c'était qu'il y a une alliance entre les grandes firmes qui produisent les biens militaires, les gros bonnets du Pentagone et les politiciens qui font une espèce de triangle, un sous-gouvernement caché qui, en fait, a tout intérêt à étendre de manière indéfinie les dépenses militaires. Et Angela Davis, elle a pris ça, elle dit, mais c'est pareil, le prison industrial complex. Il y a les opérateurs privés qui veulent gagner de l'argent. Il y a les gros bonnets de l'administration pénitentiaire, les directeurs de l'administration pénitentiaire, dont on suppose qu'ils veulent augmenter leur budget et la taille de leur prison. En fait, c'est pas vrai, mais bon, on peut le supposer. Et puis, il y a les politiciens qui, certainement, veulent profiter électoralement d'être tough on crime, d'être dur contre le crime. Et donc, il y a cette alliance qui fait que cette alliance entre ces trois éléments pousse à l'expansion carcérale. En réalité, et là-dessus, on va greffer, on greffe deux éléments qui sont importants dans ce discours de gauche aux États-Unis, qui est ensuite les prisonniers qui sont... Les prisonniers sont une main-d'œuvre corvéable et exploitable à merci. Et donc, il y a une exploitation du prison labor. Et même certains évoquent le retour de l'esclavage pénal. Et qu'il y aurait des investissements qui permettraient, donc les opérateurs privés gagnent de l'argent. En réalité, au plus haut de l'utilisation de la main-d'œuvre détenue, moins de 3000 détenus aux États-Unis étaient employés par des firmes privées. 3000 détenus sur 2 300 000, c'est-à-dire moins de 0,3%. Ensuite, il y a l'idée dans le prison industrial complex que les prisons sont devenues un secteur essentiel du capitalisme et que le capitalisme se reproduit, fait des profits et un vecteur de croissance grâce au développement du secteur pénal. Bon, c'est vrai que les dépenses de prison ont augmenté de manière astronomique, ce sont celles qui ont augmenté le plus vite de toutes les dépenses de l'État américain, mais à 67 milliards de dollars, pour un PIB de 10,5 trilliards de dollars, là aussi, on est à moins de 0,5% du PNB des États-Unis et représenté par le secteur carcéral. Donc maintenir que le prison industrial complex est devenu essentiel à la croissance capitalistique aux États-Unis, c'est un non-sens patent, puisque c'est un secteur complètement mineur. Aux États-Unis, en Californie, par exemple, la totalité des biens et services produits... La main-d'œuvre, il n'y a pas de main-d'œuvre. C'est impossible. Il y a le rêve de la droite d'organiser, de faire travailler les prisonniers. Il y a le rêve, il y a tout un think tank au Texas qui a produit tout un ensemble de documents indiquant qu'on pourrait faire, ils appellent ça, des usines derrière les barreaux. Et l'idée, c'était, on a 2 300 000 détenus. Si on en met un quart au travail, ça fait 500 000 salariés qui vont produire des biens, ils vont gagner des salaires, on va les payer, et on écrèmera leur salaire pour payer le coût de leur détention. Et donc, ça, c'était une des solutions qui était proposée pour, en quelque sorte, rendre la pénalisation de la misère par l'appareil carcéral, en quelque sorte, acceptable budgétairement. Mais dans la réalité, la gauche, la droite rêve de faire ça, mais ça n'existe pas. Et la gauche croit que c'est déjà là et le dénonce. Et les deux se renforcent l'un l'autre. Alors, il y a des campagnes, tristement. Moi, je passe mon temps à avertir les militants qui veulent lutter contre le prison industrial complex. Alors, ils veulent lutter contre l'exploitation des détenus, Mais ils ne sont pas exploités, ils sont complètement désœuvrés. Ils sont à deux, à trois par cellule prévue pour un. S'ils pouvaient avoir du travail, ils adoreraient avoir du travail, sortir de leur cellule et faire quelque chose de leur journée. Et si on pouvait leur donner du travail, dans la réalité, alors il y a 10 cas, bon, et donc il y avait ces 3000 détenus, c'est sorti dans les journaux, c'est devenu des trucs dans les journaux, il y avait même Microsoft à utiliser en 2000, quand ils ont sorti Windows 2000, ils ont utilisé, bah, parce que ça se vendait très bien, il fallait trouver de la main d'œuvre, etc. À un moment donné, ils ont utilisé par un sous-traitant des détenus de la prison de l'État de Washington, à côté de Seattle, qui ont, bon, il y avait 30 détenus dans une maison de... dans une maison d'arrêt, qui ont pendant quelques semaines, comment on dit, plastifié Windows, etc. Il y avait à un moment donné American Airlines qui avait un programme pour employer 50 détenus à Cleveland, dans l'Ohio, pour être téléphoniste, pour prendre les enregistrements Yahoo, etc. Mais c'est à chaque fois c'est des cas d'espèce complètement aberrants, mais qui ont une visibilité médiatique extraordinaire et qui sont pris comme indicateur d'une tendance. Et il y a même des syndicats qui se sont mobilisés pour lutter contre la menace que présentait l'utilisation du travail carcéral, qui, en fait, est toujours extrêmement limitée. Pourquoi ? Pour des raisons très, très simples. Une raison très simple, que le travail carcéral n'arrive pas aux États-Unis, pas plus qu'il n'arrivera en France, pas plus qu'il n'arrivera en Allemagne, etc. Premièrement, les prisons ne sont pas du tout équipées pour faire de la production industrielle. Les prisons, elles sont vétustes, elles n'ont pas les capacités ni d'électricité, ni d'eau, ni de ci, ça. Donc il faudrait rééquiper les prisons, ça coûterait plus cher de construire des appareils. Deuxièmement, ce qui prime toujours dans les prisons, c'est la sécurité. Dès qu'il y a un incident, dès qu'il y a une bagarre, dès qu'il y a une rixe entre les Noirs et les Latinos, etc., tout le monde dans sa cellule, bloqué 24 heures sur 24, etc. Mais si vous avez une entreprise qui opère et qui devait livrer, elle devrait produire, je ne sais pas moi, c'est des yo-yo. Bon, ces yo-yo, ils doivent être livrés, il faut qu'ils soient livrés, mais les détenus, eux, ils ne sortent pas. Donc, mais l'entrepreneur, il s'arrache les cheveux, comment il va livrer ses yo-yo ? Il va avoir une pénalité, ses yo-yo sont en retard, etc. Mais le directeur de la prison, lui, il a une émeute qui menace, donc il n'y a personne qui est à l'atelier. Donc les considérations de sécurité priment toujours, rendent très très difficile d'organiser la production industrielle. Et dernier point, le plus important, en plus, bon, les prisons sont très isolées, les prisons sont en général dans les régions rurales, très isolées, donc ce serait coûteux d'amener le matériel, etc. Et deux derniers points, la main-d'œuvre est extrêmement déqualifiée. Elle est déqualifiée, peu motivée. Donc comment vous allez avoir un travail de qualité de ce point de vue-là ? Et puis, elle va faire quoi ? Les seuls travaux qu'on pourrait donner aux détenus, c'est par exemple le textile, mais le textile, ça n'existe plus aux États-Unis. Il n'y a plus d'industrie textile aux États-Unis. Donc, et dernier point, l'idée que les firmes se rueraient dans les prisons parce que là, ils peuvent vraiment exploiter les travailleurs. Ils n'ont pas de congé, puisque en prison, ils n'ont pas de congé payé. L'assurance médicale est payée par l'administration pénitentiaire, donc c'est tant de moins qu'on n'a pas à faire, etc. Mais pourquoi vous allez en prison ? Les salariés américains du bas, ils n'ont pas de couverture médicale, ils n'ont pas de congé payé. Les avantages que vous auriez en utilisant cette main-d'œuvre corvéable à merci derrière les barreaux, mais vous les avez déjà avec votre main-d'œuvre à l'extérieur. Donc pourquoi vous allez aller vous ficher en prison ? Donc pour toutes ces raisons-là, le rêve d'étendre le travail salarié en prison, c'est une espèce de chimère qui n'arrivera pas. Et donc pour ces raisons-là, et puis pour les raisons qui ont trait à la centralité de l'appareil pénal dans l'affirmation de la souveraineté de l'État, le châtiment est et demeure un privilège de l'État et la privatisation de menaces. Alors maintenant, la police, c'est par la police que ça peut jouer. Et dernier point, il y avait une dernière question. À Paris urbain, les ghettos. Juste en une minute, lisez mon livre Paris urbain. Lisez mon livre à Paris urbain dans lequel je montre que des ghettos, il y en avait aux États-Unis, il n'y en a plus parce qu'il est tombé, il a explosé dans les années 60, il s'est transformé et il n'y en a pas ni en France, ni en Allemagne, ni en Angleterre, ni en Italie, ni ailleurs. Ce qu'il y a, il y a des quartiers déshérités, il y a des quartiers abandonnés, il y a des quartiers stigmatisés, mais des quartiers stigmatisés ou des quartiers de violence ou des quartiers de pauvreté, ça n'est pas des ghettos. Sinon, si c'était ça des ghettos, le ghetto de Venise, qui en 1615 a donné le mot, n'était pas un ghetto parce que ce n'était pas du tout un quartier ni pauvre, ni violent, ni déshérité. C'était un quartier dans lequel les juifs étaient enfermés. Tous les juifs étaient enfermés parce qu'ils étaient juifs. Et ils sortaient de ce quartier le jour pour apporter leur force de travail, leur capacité, etc. Et ils rentraient la nuit dans cet espace clos qui leur était réservé. Or, il n'existe aucune population aujourd'hui en Europe qui est assignée à un espace propre dans laquelle cet espace lui est réservé, c'est-à-dire qui est ethniquement homogène, et de laquelle elle ne peut pas sortir quand elle monte dans l'échelle de classe. Les habitants des quartiers déshérités aujourd'hui, quelle que soit leur couleur de peau et leur origine, alors avec des facilités plus ou moins grandes, quand ils montent dans l'échelle de classe et dans les métiers, ils sortent de ce quartier, ils vont habiter ailleurs. Personne ne les garde dans un enclos. Et donc le mythe des ghettos, alors il sert le mythe des ghettos, le discours sur les ghettos, il sert à spatialiser la nouvelle question sociale, à faire croire que c'est un problème de quartier, d'espace, de même que le discours sur la sécurité sert à faire croire que la nouvelle question sociale, qui est la question vraiment du chômage et de la précarité salariale, est une question de délinquance, où le discours sur la diversité, l'ethnicité, etc., sert aussi à mettre une espèce de voile culturel pour qu'on nous dise que c'est une question d'ethnicité, d'intégration, etc. Alors qu'en réalité, s'il y avait le plein emploi, toutes ces questions disparaîtraient d'elles-mêmes ou seraient posées de manière intelligente, de telle sorte qu'on puisse les résoudre. Merci.
Je lui donne la parole et on le remercie. Quatre annonces. Vous avez la séance reprend à 9h05 pour la projection débat à Planétarium. Il y a à manger en haut, peut-être pas pour tout le monde, ou alors il faut beaucoup partager, mais bon, voilà, on n'avait pas prévu assez. Il y a une table avec des livres là-bas. Vous trouverez des livres sur la thématique du festival et des livres des éditions Raison d'agir et des éditions du Croquant. Et puis vous avez une caisse pour libre participation aux frais avant que tout le monde sorte, juste à la sortie. Donc on a des subventions, mais on n'a pas que des subventions.